bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. Voilà, gagner une peluche à ma droite, un tour gratuit, un tour à l'œil à ma gauche. Nous sommes le 30 novembre 2013 et nous revoilà tous ensemble pour l'enregistrement du quatrième volet de l'Entrepod. Aujourd'hui, autour de la table, il joue de la basse comme personne. Il a un cachet qui dépasse les 4-0 pour faire cette émission, sinon il serait sur une plage de Copacabana, les doigts de pied en éventail, un cocktail banane goyave à la main. Je nommé Christophe.
Bonjour.
Allez, la discrétion, il est l'exubérance, elle est timide, réservée, quasiment soumise, il est audacieux, hardi et dominateur. Tous les séparent, mais ils se sont quand même réunis pour le meilleur et le meilleur. J'ai nommé Didouille et Mister Lulu.
Ah, c'est nous, bonjour.
Allez, chroniqueuse. Elle est chroniqueuse, mais également chanteuse dans le groupe Ken Kiyu. Elle a la voix douce comme la rosée du matin, mais elle est également capable de vous parler comme chat, des fois. J'ai nommé Starlette.
Je vois pas de quoi tu parles, là.
Je ne devrais pas me présenter, car vu le nombre très important de courriers reçus parlant de mon absence sur le dernier enregistrement de l'Entrepod, montre que mon fan club constitué de 4 membres grandit à vue d'œil. Je me nomme en toute simplicité Marius.
Salut Marius.
L'invité du jour possède plus d'une corde à son arc. Et les cordes n'ont plus de secret pour lui, car il s'est spécialisé dans le domaine des mandolines, banjo et autres guitares. Il sera bien plus habile que moi pour nous parler de sa passion dans le courant de cette émission. J'ai nommé Gaïdic Chambrier.
Bonjour à tous.
Et enfin, il nous a tous embarqués sur son bateau nommé Anthropod. Il est l'arbitre qui distribue sujets, coups de fouet et donne la parole à chacun. C'est un plaisir de le suivre dans cette aventure sur des mers déchaînées, des océans de bonne humeur et d'éclats de rire. Je lui laisse la parole et j'ai nommé Nico.
Bonjour Nico.
Bonjour à tous. Marius, là, tu...
C'est un timing sérieux.
Tu t'es surpassé.
Et en plus, on va tenir le délai de l'émission avec ce débit-là, c'est impeccable.
Alors, nickel. J'espère que tout le monde est accroché. Hein,
par contre, j'ai rien compris, tu parlais trop vite.
Et surtout, il faut la refaire.
T'es parfois un petit peu à côté du micro.
Eh bien, bonjour à toutes, donc à toutes et à tous. Donc, comme vous avez pu le constater d'emblée, bah, Marius est de retour parmi nous pour notre plus grand plaisir.
Super.
Et bah malheureusement par contre c'est pas le cas de Freddy qui nous reviendra très prochainement et on le salue bien amicalement.
Oui, salut, gros Freddy. Bisous Freddy.
Donc ce mois-ci nous accueillons un nouvel invité, comme l'a présenté Marius, c'est donc Gaïdic Chambrier, musicien professionnel, guitariste de son état mais pas que, qui nous fait l'honneur de se joindre à nous en cet après-midi. Donc on échangera un petit peu avec lui un petit peu plus tard. Donc bien entendu, qui dit pas de Freddy dit pas de quiz de Freddy ce mois-ci, mais au sommaire de ce numéro, nous retrouverons les rubriques désormais habituelles. Donc un retour sur l'épisode précédent en quelques points. Ensuite, nous ferons un petit tour d'actu selon ce qui a attiré notre attention. Nous échangerons avec Gaïdic qui nous présentera son métier et particulièrement peut-être son spectacle Histoire de guitare, mais aussi ses différents centres d'intérêt et tout ce qu'il veut échanger avec nous. Ensuite viendra le moment de la rubrique à brique, la rubrique sans thématique particulière, un peu un fourre-tout quoi, au cours de laquelle nous présenterons un focus sur quelques sujets spécifiques. Ce mois-ci, Starlette et Didouille nous sont allés tester pour nous le salon de l'érotisme en début de mois et vous verrez un petit peu ce qu'elles en ont retenu.
On a hâte de savoir.
Puis ce sera le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun en 60 secondes chrono et nous terminerons avec la séquence pour s'endormir moins bête de Didouille. Bien évidemment, on n'oublie pas la toujours très attendue ou redoutée, c'est selon séquence de Mister Lulu. Et puis, bah, je dirais que c'est parti.
Résumé de l'épisode précédent.
C'est Starlette qui commence avec un retour sur...
Alors, en fait, au dernier épisode, je vous avais présenté dans mon coup de cœur le morceau de Lord qui s'appelle Royals. Et on a découvert avec Nico qu'il avait été repris, notamment par Scott Bradley, qui est pianiste. Et donc, qui fait des reprises régulièrement avec son groupe, qui détourne en fait des morceaux. Donc là, c'est le Sad Clown with the Golden Voice. On va en écouter un petit extrait. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. Donc il faut voir le clip, c'est vrai que c'est sympa comme tout. Le clown fait à peu près 3,50 m, je pense.
C'est vrai qu'il est assez mastoc.
Ah ouais, il est carrément mastoc. Je trouve cette version très sympa aussi.
Non. Moi qui n'avais pas trop aimé l'original, j'aime beaucoup celle-ci, version un peu jazzy.
Moi aussi, je préfère celle-ci.
Ah oui,
c'est sympa.
Moi, je l'aime bien avec le pavillon en arrière. Je sais pas où ils ont filmé ça. C'est... dans la salle à manger,
oui,
je crois.
Et bien, toutes les reprises sont dans la même salle.
Ils en ont plusieurs comme ça. Ils reprennent vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a vu, je sais plus, Jessica Black, des trucs un peu plus modernes, même du Britney Spears ou des choses comme ça. Mais c'est
Et toujours en clown.
Non. Non. Non, non, en fait, je dirais que le dénominateur commun, c'est à chaque fois Scott Bradley, là, qui est lui, a l'air d'être l'arrangeur en général. Et puis il s'entoure de différents potes pour remettre sous une couleur un peu jazzy des standards ou des chansons pop d'actualité. Oui, Didouille ?
Oui, moi, tout ça pour dire que c'est pas nouveau, hein. Voilà.
Ça y est,
c'est bon.
C'est...
Ok. Ça
alors,
je sais
pas
si
vous c'est comme ça.
De...
Non, parce que les arguments à la Marius, merci. Hein.
Normalement, c'est moi ça.
Non, mais je sais pas si vous vous souvenez de ce gars qui s'appelle Richard Cheese, qui avait pour habitude de reprendre des standards, enfin, ou en tout cas des super titres qui faisaient le buzz.
Il y a Polanka aussi, mais c'est
mais
pas.
Mais il était très connu parce qu'il faisait version jazz.
Polanski plutôt.
Non. Il faisait des versions jazzy et des versions absolument surprenantes de différents groupes. Il y avait Depeche Mode, il y avait Guns N' Roses, il y avait tout ça. Oui, pardon. Et voilà.
Le fouet.
Si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, n'hésitez pas à taper Richard Cheese et vous allez voir, c'est du même acabit. Voilà.
Ok. Eh ben,
merci en tout cas.
J'en voulais.
Donc Richard Cheese. Ah, tu mets un coup de fouet. Ah. Eh ben merci Didouille et Starlet. C'est vrai que c'est une version assez intéressante. Je vais essayer de faire attention parce qu'on m'a fait remarquer que je faisais beaucoup.
Tu déglutis beaucoup,
voilà.
Effectivement.
Donc,
tu as des problèmes de salive.
Exactement. Ça c'est parce qu'il faut que voilà, faut que une petite bière et ça passe. Quant à moi, je vais vous faire un petit retour assez rapide sur.
Il y a un message non pour la bière, je pense. Hein.
Je pense.
Il est en train de parler, donc faut que je dise.
Sur la revue dessinée dont nous avait parlé Freddy le mois dernier. Donc, je l'ai lu, et je l'ai lu sur la version numérique iPad, en fait, qui, pour information, coûte 3,59€, donc est beaucoup moins cher que la version papier. Après, c'est juste à titre d'information. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette publication qui s'adapte très, très bien au format numérique. Il y a les petites parties en savoir plus dont nous avait parlé Freddy qui se trouvent à la fin de chaque dossier qui sont assez intéressantes sur la version numérique puisque ils y joignent des vidéos. Des vidéos YouTube, des liens hypertextes qui permettent d'enrichir un peu plus la connaissance par rapport à ce qu'on avait pu voir. Et puis, il y a quelques petites coquilles que j'ai pu remarquer, mais bon, les équipes de la revue dessinée sont assez réactives et je leur ai fait remonter les infos. Et normalement, ils reprennent en compte, donc ils sont assez sympas. Ils aiment bien avoir les retours de leurs lecteurs. Donc, n'hésitez pas si vous avez lu ou vous avez remarqué des choses, des améliorations, n'hésitez pas à leur faire remonter. Moi, j'ai particulièrement aimé les histoires concernant l'embarqué à bord de la frégate de la Marine nationale, le Floréal. Tu l'as lu, Christophe ?
J'ai lu aussi, oui. J'ai acheté la version papier parce que j'aime bien le papier.
Ouais.
J'adore le papier.
Qui d'ailleurs n'est pas facile à trouver dans toutes les presses parce que...
Ah bon ?
Non. On en a écumé quelques-unes avec ma copine pour justement pouvoir
finalement,
exaucer le souhait de...
Il est à la FNAC, il est chez Funambule,
c'est
par exemple.
Basique, oui,
il est dans des magasins...
Spécialisé, on est bien d'accord.
Bah, il est plutôt chez les BD,
les
en fait. Non, il est chez les BD, je pense.
Oui,
plutôt.
Pas dans les kiosques habituels presse.
Donc, en tout cas, je l'ai vraiment bien aimé, celle-ci. L'enquête sur le gaz de schiste était assez intéressante aussi.
Ah oui, franchement...
Enfin, l'ensemble est vachement intéressant. J'ai fait ressortir ces deux-là particulièrement, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est une réussite. J'ai beaucoup aimé aussi la saga de l'ordinateur. Je rebondis justement sur ce que tu disais en préambule. Et notamment, deux, trois petites anecdotes, pages 54 et 55, si vous voulez revoir un peu ce à quoi je fais allusion. C'est... Moi, je fais le parallèle avec justement le discours que vient d'avoir Christophe sur le numérique et sur le papier, puisque on voit des petits commentaires de personnages qui font des commentaires justement sur au moment de l'invention du premier calculateur, on voit un petit personnage qui dit ouais, de toute façon, ça remplacera jamais une bonne addition sur un calepin et l'odeur du papier. Donc là, tout de suite, pouf, j'ai pensé à Christophe.
Oui, forcément.
Et puis la page suivante, quelques cases plus loin, on a le même style avec le premier ordinateur qui faisait de la musique. Et toujours un petit personnage un peu grincheux qui nous dit « Ouais, ça remplacera jamais un bon solo de flûte à bec, la texture du bois, le parfum du bois, blablabla. » Donc bon, voilà, c'était une petite anecdote, une petite pique pour Christophe, parce qu'on a souvent des débats entre le papier et le numérique.
Non, mais je trouve que les deux sont importants. Il faut les deux. Moi, j'aime bien le papier, mais j'oblige personne à penser. Voilà,
en même temps, quand tu vas aux toilettes, t'es mieux à avoir du papier que du numérique. Hein. Moi, je dis ça. Quoi.
C'est vrai.
Voilà, et donc ça commence bien.
Moi, je propose
bien.
Qu'on se fasse des petites pancartes pour noter à chaque fois
oui,
les interventions.
Je
c'est pas très radiophonique, mais
oui.
On fera la moyenne après, on informe les auditeurs.
Okay.
Et puis un autre petit complément que je voulais faire sur quelque chose dont j'avais parlé dans l'épisode 2. Je suis allé aux portes ouvertes de Seninopolis, donc le pôle des nouvelles technologies et pépinière d'entreprise qui s'est installé à quelques encablures de chez nous en plein centre de Petit-Quevilly et qui a été inauguré le 14 novembre dernier. Donc le 16 novembre se déroulait donc une journée porte ouverte pour découvrir les parties communes de l'établissement, puisque forcément tout ce qui était déjà occupé par des entreprises était fermé au public. Et c'est vraiment très beau. Enfin, le cadre et l'aménagement autour de la vieille caserne qui doit dater du 18e ou 19e siècle, qui est à la base une filature, pardon, qui est ensuite devenue une caserne militaire et qui maintenant accueille les nouvelles technologies et qui mélange architecture moderne avec l'ancien. Je trouve que ça rentre très très bien et puis ça donne envie de participer un peu à cette aventure. Il y a déjà une trentaine de start-up qui sont installées sur 10 000 mètres carrés de locaux, donc il y a encore un peu de place, mais on peut voir que la créa s'organise pas mal pour les pépinières d'entreprise, puisqu'il y a déjà Sen Biopolis qui s'occupe de tout ce qui est dédié à la biologie, Créapolis pour les entreprises généralistes et Ecopolis pour tout ce qui concerne la construction durable, l'éco-construction, qui va bientôt être inaugurée à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà. Donc et puis ça a été pour moi l'occasion de découvrir une petite association bien sympathique sur laquelle je reviendrai plus tard. Didouille, tu voulais dire quelque chose, non ?
Ouais, je disais que s'il y avait de la place, ce serait sympa aussi de concevoir l'idée d'accueillir dans un local différents podcasts qui tourneraient, je sais pas.
C'est vrai.
Bah, pourquoi pas, après
c'est
tout.
C'est le principe un peu de Freepod en région parisienne où ils mutualisent le matériel, en fait.
Je sais pas si vous avez entendu parler de l'actualité des nouvelles, les Fab Labs. Oui, qui existe depuis longtemps, mais il y en a une qui est sur Paris et qui, en l'occurrence, accepte tout le monde dès lors qu'il y a un échange sur les idées. Donc, ce serait intéressant aussi qu'il y ait cette idée-là sur ce site. Et puis, pourquoi pas accueillir des podcasts, parce
qu'apparemment,
c'est quelque chose qui... Bah oui, pourquoi pas.
On pourrait leur demander s'ils peuvent nous faire, parce que c'est vrai que bon, on n'est pas à l'étroit, mais on pourrait avoir plus de place.
Exactement.
Ouais, et puis subventionner les micros, tout ça, parce qu'on a le matériel de merde, donc ce serait bien.
Bon, quoi. Toi, tu vas pas commencer.
Un léger petit retour.
Vas-y.
Moi également, sur le dernier épisode, j'étais pas là, et puis...
C'était bien.
C'était bien, oui, effectivement. Et puis, donc, on a été voir le concert de la Maison Tellier. Donc, je voulais seulement faire un tout petit clin d'œil à ce groupe que je ne connaissais pas du tout. Et oui, le mentionner, j'ai pris une sacrée tartine. Et là, je suis en train d'écouter le Beauté pour tous, leur album, qui est tout simplement formidable. Voilà.
Voilà.
Dans le micro. Tout ce que je voulais dire, c'est tout.
D'accord. Non, mais c'est très, très bien.
Je partage.
Un petit retour sur les commentaires de nos auditeurs. Donc, on a eu pas mal de retours, je dirais, indirects par Anthony, en fait, sur son profil Facebook. Donc, des gens qui ont bien aimé la bonne ambiance et puis le côté sympathique qu'on apprend en s'amusant avec l'épisode précédent sur le Chili. Toujours les petits problèmes de micro. Donc, c'est pour ça, on va continuer d'être vigilant à bien parler dans le micro, hein. Et puis, moi, je vais essayer d'éviter de faire ça trop souvent.
Moi, je trouvais que c'est ce qui fait tout ton charme, Nico.
Ouais, bof. Mais bon, on va essayer de faire attention par rapport à ça. On est toujours, nous aussi, très friands des retours de ceux qui nous écoutent, parce que bon, c'est toujours, on n'est pas forcément très objectifs nous-mêmes, donc c'est bien d'avoir l'avis des gens. On a eu un nouveau commentaire sur iTunes aussi. Quelqu'un qui nous dit qu'on a un sujet, des sujets et un ton très agréable, donc à continuer comme ça. Et puis merci aux autres podcasts comme Loud Corner, Quid Novi, DJ Riddle, mais aussi Walter Proof, qui nous ont fait des retours très sympathiques et encourageants. Donc, bon, j'espère que j'oublie personne. Et puis, globalement, tout va bien et on va continuer comme ça. Voilà pour les retours. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à la rubrique Actu.
Salut la compagnie, ça va ?
Qui commence pour l'actu ? Marius ?
Alors, moi, j'ai rien pour l'actu.
T'as pas d'actu aujourd'hui, Mactu, Marius ?
Non, j'ai pas d'actu.
Ah, moi, d'accord. Non, t'en as vu, de pas en avoir. Hein.
Passer un tout petit, encore voilà, un autre message, en fait, de M. Jean-Édouard Criquioche, un ami en commun qui est sur la Transat Jacques Vabre, qui court en classe 40 et qui est encore en pleine mer
oui, parce que
à l'heure où je vous parle.
Les premiers classes 40 sont arrivés aujourd'hui.
Ouais.
Enfin, le premier de la classe 40.
Ouais, les autres
donc
catégories.
C'est
non. Non, pas
encore. Oh, il est nul alors.
Donc il a pas gagné.
Et pourquoi on parle de lui alors? Jean-Edouard, s'il nous entend.
Non, mais il est en 14e position. Ouais. Ah non, 15e, il vient de perdre une.
Ils sont combien?
Attends, le classement
on
en direct.
On va suivre le classement direct.
Ils sont encore 23 en course. 23 en course, mais il a eu beaucoup de soucis, des gros soucis. Il a perdu des dents, il s'est fracturé la mâchoire.
Tu plaisantes,
là.
Franchement, Edouard, tu vas être beaucoup moins beau, ça me
déçoit.
C'est clair,
il était pas mal, c'est con.
Non, là, il a
ça
pris un sacré coup.
Ouais.
Ah, il a ramené à moi sa grande gueule.
Il est classé combien, là?
15e.
Sur 23?
15e avec un safran en moins.
C'est bien.
Un safran.
Oui, le gouvernail, en gros, pour le langage.
Oui, mais ça va, je connais pas.
Et comment il fait pour se diriger sur le gouvernail?
Bah, suivant le bord, en
avec
fait.
Avec les dents.
Suivant le bord. Suivant s'ils sont à bâbord ou tribord, c'est très, très, très difficile. Donc, non, chapeau, parce qu'il en a pris plein sa gueule pour parler.
Ah, bah, c'est pas
ça va pas être facile tous les jours.
Et puis bah, il se bat toujours. Il y a un petit
oui,
message.
Bah, oui, on rigole, mais c'est courageux. C'est courageux.
Déjà, faut le faire. Ouais. Bah,
il a avec lui. Il a voulu en même temps.
Oui, bah, c'est bon.
Forcément,
c'est sûr, il fait rien, il t'arrivera rien. Hein, bon. Ok, bah, merci. On passe un grand coucou à Jean-Edouard.
Bisous, Jean-Edouard, et bon courage.
Mister Lulu, toi, tu voulais revenir sur.
Oui, moi, je veux revenir sur la mort de Gérard de Villiers. Parce que je trouve que c'est super important. Le 31 octobre 2013, Gérard de Villiers nous a quittés. Vous savez tous qui est Gérard de Villiers, j'espère.
Bien sûr.
Absolument. Ah,
ben, tu ne sais pas, Gérard de Villiers, c'est...
C'est les livres noirs, SAS.
C'est le magnifique livre que tu vois partout, SAS.
Ah oui,
SAS,
oh oui.
SAS, Malcolinge. Je cite quelques titres. Requiem pour les tontons Makoutes. Vengeance tchétchène. Le beau Danube rouge. Toute cette littérature donc passionnante qui nous a occupé, enfin qui d'ailleurs qui occupe les qu'on appelle ça les présentoirs des halls de gare depuis 1965. Voilà.
Ah oui, c'est ce que je me disais, c'est très très vieux.
Ah oui, mais c'est un reste encore très actuel. Il continue à écrire encore jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Enfin, chez Skimmer, forcément, parce qu'après ça a été plus difficile pour lui. En attendant, c'était ce fameux Gérard Villiers qui se présentait comme anticommuniste, antisocialiste, anti-islamiste, à droite toute. Mais par contre... pas raciste, hein, c'est ce qu'il précisait, misogyne également. Oui. Enfin bref, voilà. La, vraiment, je crois qu'il y avait une
comment c'était ça, un peu OSS 117 quoi. Au premier degré.
C'était disons que c'était du roman d'espionnage érotique. C'était comme ça qu'il présentait.
J'ai jamais. Ouais,
j'ai il était aussi. Il était aussi éditeur sur d'autres types de romans, comme je sais pas si vous avez entendu parler de Jag ou de Blade, le voyageur de l'infini. Blade, le voyageur de l'infini, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était. Bah, disons que c'était de la science-fiction. Avec du cul. À moins que ce soit plutôt du cul, avec la science-fiction, ça dépend comment on envisage les choses. Voilà. Enfin bref.
En tout cas, tu nous fais rêver.
Voilà, je vous invite vraiment à redécouvrir de la littérature de Gérard de Villiers. Il avait vendu quand même 150 millions de livres, hein, faut quand même voir le truc, hein, ce qui était quand même.
Un lien avec Philippe de Villiers ou?
Pas à ma connaissance, non. Bon. Pas à ma connaissance.
Un petit cousin?
Voilà ce que je pouvais dire. Ah, cool, et c'est dommage, hein, il était méprisé par la critique littéraire. Il suffit d'ouvrir un bouquin pour comprendre un peu, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour moi.
Nous passons maintenant à Didouille.
Oui, Didouille. Alors moi, je fais une actu qui a un petit peu rapport avec Starlet et notre expérience le mois dernier. Parce que figurez-vous qu'à Londres, c'est créé un mouvement qui s'appelle le Project Bush. Rien à voir avec Georges, je vous le dis tout de suite.
Je
vous dis poilu, touffu.
Barbu.
Mironton ou Barjabule?
Tatoué, lisse.
C'est pas l'épilation.
Vieux.
C'est pas l'épilation d'art.
Non, c'est un rapport avec l'anatomie féminine.
Je vois
la narine. Dites.
Le pubis.
Bien, le pubis.
Ah, je pensais qu'il y avait un piège, moi.
Ah oui, moi aussi, je vais sortir une connerie encore.
En fait, il y a une agence à Londres qui s'appelle Mother London qui est à l'initiative d'un projet qui s'appelle le Project Bush, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, et en association avec plusieurs groupes féministes, ont décidé d'alerter la population sur le taux très élevé de jeunes adolescentes à partir de 11-12 ans, oui, qui se font faire des épilations intégrales. Donc, oui.
Étonnant.
Et on sait tous que l'épilation intégrale vient du milieu porno. Et donc bon, pour alerter.
Non.
Ah oui, mais nous maintenant, parole, mais... Starlet, nous on le sait. Donc, ils ont décidé.
On va m'annoncer quelque chose sur son passé, là.
Non, mais ils ont décidé de sensibiliser justement les jeunes filles et les personnes en général sur cette, sur ce problème qui inquiète la santé publique aussi, puisque ils sont très jeunes. Et donc une photographe qui s'appelle Allison, je ne sais plus son nom d'ailleurs, Conan. Qui est très connue dans le milieu de la mode, prend des pubis en photo.
Monte ton public.
Et en gros, c'est ça. L'idée, c'est d'en montrer plus en plus, de, le plus possible. Donc là, il y a eu 93 pubis qui ont été pris en photo, justement pour sensibiliser la gente féminine sur, ouais, sur le problème de l'épilation.
C'est pas les parents qu'il faut sensibiliser.
Alors, mais justement, ça touche tout le monde. Enfin, ou alors et c'est pour expliquer surtout qu'il en existe de différentes façons.
Est-ce que c'est vraiment un problème?
C'est quoi le problème? Il faut peut-être désensibiliser les petites quand elles sont épilées, finalement. C'est peut-être ça le problème, non?
Tu raseras pas ton pubic.
Le problème, c'est le problème de toutes nos jeunes filles qui, sous prétexte, voient à la télévision des gonzesses super minces. Il faut qu'absolument elles soient super minces, donc on tombe dans l'anorexie.
Oui. Pour la santé, là, c'est pas mauvais.
Alors, voilà, les gynécologues te diraient, il y a eu des études de fait.
Vas-y, défends-toi.
Mais oui, je vais me défendre. L'épilation à tout va peut cacher certaines choses et ne permet pas de diagnostiquer des problèmes de maladie de peau au niveau des pubis.
Je suis d'accord. Oui, ouais. C'est comme le port du pantalon. Moi, je trouve que c'est incroyable d'avoir le port du pantalon autorisé pour les femmes. C'est un problème de santé publique. Et là-dessus, je serais assez ferme, en fait. Hein, et j'aimerais qu'on fasse un sujet un jour.
Bref, tout ça pour vous dire, parce que voilà. Donc, y avait
surtout Napoléon l'avait bien interdit.
Exactement. Ça, et puis honnêtement, le droit de signature, hein, la capacité juridique, ça, c'est un truc, c'est même pas imaginable.
Le droit de conduire dans certains pays, c'est vrai que ça donne des maladies.
C'est incroyable.
Enfin, tout ça pour vous dire que ça a été mis en place à Londres. Je donnerai d'ailleurs la photo que vous pourrez voir sur le podcast. Oui.
Ok, d'accord.
Et puis, tout ça pour vous dire aussi qu'il y a de plus en plus de choses qui se font comme ça. On profite des nouvelles technologies, pardon. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler du motorboating.
Pas du tout.
Non. Alors maintenant, pour sensibiliser les gens à plein de choses, encore et toujours, et notamment sur le cancer du sein, les hommes sont invités à venir déposer leur front et en faisant brrr, dans les nibards des gonzesses. Et oui, ça s'appelle du motorboating. Et tout ça, c'est...
Bon courage. Voilà.
Et à chaque fois que vous arrivez à plonger votre tête dans les nibards
sans prendre un coup de boule ou...
Non, ben, tu demandes l'autorisation d'abord, mais tu récoltes des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Alors, du coup, ça a donné des idées aux filles qui, elles, se sont lancées dans la main au panier. Et ça, pour sensibiliser sur le cancer de la prostate et les testicules des mecs.
Franchement, c'est facile. Hein.
Wow. Mais oui, je suis d'accord. Aussi, non, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on fait tout et n'importe quoi.
Ah oui, tu
du
le
prouves moment, ben oui, du moment que ça fait parler de... Enfin, les idées sont à... C'est pas qu'elles sont mauvaises ou quoi ou qu'est-ce, mais je trouve dingue. On arrive à des choses absolument hallucinantes. Alors autant le hug free, je trouvais ça rigolo.
Oui, free voilà, oui.
Free hug, pardon. Ouais, c'est pareil. Hein, au final, la traduction est la même. Tu vas pas m'apprendre l'anglais, dis donc. Ah. Oh.
Je dirais plus.
Non, je rigole.
Sur vos petites forces.
Non, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses. Donc là, la dernière en date. Alors tout le monde sait que H&M a toujours été engagé pour la lutte contre le SIDA. Donc, en général, t'as des artistes et tout ça qui font la promotion des nouvelles collections pour H&M. Là, cette année, H&M donc, se sert aussi des réseaux sociaux. Et là, l'idée, c'est... Alors, grâce à Freddy, hein, vous savez, Freddy nous avait informé ce qu'était le selfie.
Oui. Et ben là, l'idée... Depuis qu'il en a parlé, j'entends tous les jours.
Et ben là, l'idée, c'est...
Il est même entré au dictionnaire, je crois.
Non, c'est le mot le plus utilisé de 2013.
Mais en Angleterre, non?
Ah, peut-être.
Bah là, toujours est-il que H&M lance une campagne de bisous. Alors, pour se prendre en photo, pour se faire un bisou, un piou, et dès qu'il est mis sur le site H&M ou sur les réseaux sociaux, ça rapporte $1 pour les associations de lutte contre le sida. Ouais, donc n'hésitez pas.
L'argent directement.
Merci H&M. Merci H&M. Encore merci.
Faites-vous des boujoux.
Faites des boujoux. Okay. Mettez la tête dans les seins. Faites-vous toucher les boules.
Voilà.
Juste une remarque plus sérieuse sur le
C'est très sérieux là.
Non mais sur le principe du photo des 93 pubis en fait, c'est que non mais j'y reviens parce que pour aller dans le sens
du doux. Tu peux dire chatte hein.
Non, pubis, ça me va bien. Pubis me va très très bien.
Bah non, mais après, ce qu'on va dire. Non, moi, je dirais pas chatte. Hein.
Ah, tu dis. Non, non.
Ah, j'aime
non.
pas. Choqué.
Pubic, c'est bien le pubic.
Oui, j'aime. Pubic. Pubis. Ouais. Non, je disais que ce qui est intéressant à la démarche des 93 pubis, c'était aussi une façon de montrer les différences. C'est-à-dire qu'en fait, c'était contre la norme.
Exactement.
L'idée de dire une espèce de norme hygiéniste qui consiste à dire, tu parlais de la culte des clichés ou des canons hérités du porno, c'est-à-dire qu'en fait, tout sur un même modèle, en gros, le sein calibré, le truc et tout. Et là, les 93 pubis te montrent à quel point la foufoune est diverse et variée.
Donc, voilà. Il y a des pubis poilus, par contre, velus.
Oui, tu as tout.
Ah, mais attends, je vais te montrer la photo en grand.
Tu as de la toundra.
Nous avons une personne dans le public aujourd'hui qui se demande ce qu'elle fout là.
La jungle amazonienne, t'as tout, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Il y en a pour tous les goûts.
Il y en a même deux, je crois.
Tiens.
Et alors, le public
cherche, voilà. Cherche, il y a peut-être Starlet et tu le sais pas.
Ah, effectivement, oui.
Tu vois, c'est ça l'intérêt.
L'intérêt, c'est de montrer qu'effectivement, il n'y a pas la norme.
Il y a du pubis dans tous les sens.
Et voilà. C'est oui à la différence, quoi.
Voilà. Alors, ce qui est très rigolo, si vous allez sur le site, c'est les commentaires, quoi. Oui, moi, j'aime pas trop les poils ou tout ça, voilà. Voilà. Beau papa, c'est bien l'intervention que vous avez faite, beau papa. Je me cherche.
Je pense pas qu'il l'écoutera.
Je me cherche.
Merci Didouille pour toutes ces informations. Nous allons passer un moment un petit peu plus sérieux après cette gaudriole et cette franche rigolade. Nous allons un petit peu nous recentrer sur des sujets plus culturels avec la rubrique de notre invité Gaëdic avec lequel nous allons les échanger.
Nous avons fixé une doctrine. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness.
Et donc oui, notre invité aujourd'hui, donc c'est Gaëdic Chambrier. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est un musicien et comme beaucoup de gens l'ont souvent remarqué, enfin souvent, on n'est qu'au quatrième numéro. Mais la musique, c'est quand même un sujet qui revient assez régulièrement dans nos préoccupations, dans nos centres d'intérêt. Et puis aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Gaëdic qui accepte notre invitation. Donc Gaëdic, moi je l'ai connu grâce à Pierre Journel. Donc de la chaîne Guitare, qui l'avait interviewé pour Histoire de Guitare. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert que Gaëdic était un régional de l'étape, originaire de Rouen et de sa banlieue. Donc on a essayé de l'inviter. Il a gentiment accepté, malgré un concert qui s'est terminé fort tard hier soir. Il est parmi nous. Avec le sourire, il doit se demander un peu ce qu'il fait jusqu'à présent. C'est un petit peu le bordel, mais nous allons donc échanger avec lui. Et puis, pour commencer, on va peut-être te laisser te présenter, Gaëdic. Donc, Gaëdic, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Et
où vas-tu?
Est-ce que tu aimes les lustiques? Voilà, exactement. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de questions autour. Ah, par contre, on va augmenter un petit peu ton micro.
Ouais.
Alors donc, je suis originaire de Rouen. Comme beaucoup d'entre vous, si je ne m'abuse. Voilà, première partie de vie musicale dans la région, et puis un départ vers la région parisienne par la suite. Voilà, donc, et puis désormais, je vaque à mes occupations musicales où le vent me porte, donc un peu partout en France ou ailleurs éventuellement.
Ça t'arrive d'aller à l'étranger, donc ?
Ça m'arrive, oui, c'est évidemment pas le plus souvent. Mais ça m'arrive, voilà.
Donc on va dû poser la question mille fois, mais la guitare, t'as commencé comment, quand, c'était... Pour commencer au début, les origines, quoi, enfin voilà. Alors, les origines du mythe.
C'est une très bonne question. Effectivement...
C'est rare de Ludo.
Merci, tu vois.
Elle est pour toi.
Non, mais il faut savoir se rendre populaire. Alors, en fait, généralement, je suis quasiment toujours, lorsque les gens voient un musicien professionnel, particulièrement la guitare, pensent qu'il faut un parcours académique, avoir démarré vers 5-6 ans à la baguette, avec un professeur russe et des partitions de tous les côtés.
C'est vrai que le professeur russe, il y est pas beaucoup,
le professeur russe.
Voilà, donc, quelque chose de très, très classique et très sérieux. Alors, en fait, pas du tout. Moi, c'est mon gentil papa qui m'a mis à la guitare quand j'avais une dizaine d'années. Et donc, j'allais au centre, je crois que c'était Marc Sandier, je me souviens plus. Et dès que je voyais sa voiture tourner le coin de la rue, je faisais une marche à reculons et je séchais le cours de guitare.
Non, tu déconnes.
Et si.
Donc, résultat, en fait, sécher les cours, vous irez loin.
Voilà. Donc, en fait, j'étais censé faire de la guitare le mercredi après-midi et en fait... J'allais dépenser l'argent du cours à m'acheter diverses choses, magazines, bonbons ou autres. Donc voilà, en fait, et puis j'ai commencé, quand j'ai commencé à m'intéresser aux filles, en fait, hein, tout simplement, hein, quand j'ai été adolescent, je me suis dit quand même que c'était quand même dommage que les potes qui jouaient de la guitare, emportent le morceau de cette façon, alors que moi je restais seul et abandonné à les regarder jouer.
Avec ta guitare sèche.
Voilà. Et donc, je me suis mis à la guitare un petit peu tout seul à l'adolescence. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça, de façon très informelle.
Donc, tu as appris tout seul, alors ?
Ah oui. J'ai pris quelques cours donc, avec Bernard Bigot donc, quand j'avais 11 ans. Et je m'excuse auprès de lui de l'avoir fait attendre si longtemps à chaque fois. Mais c'est à peu près tout. En fait, après, j'ai appris tout seul. Je suis allé beaucoup à des concerts, aller rencontrer les gens à la fin des spectacles, leur demander des tuyaux, de montrer des choses. Enfin voilà, c'était la façon la plus informelle du monde.
Donc au départ, quand même, tu étais très curieux et tu voulais approfondir quelque chose qui... Enfin, est-ce que c'est pas finalement le côté très académique de par l'idée du cours, ça te gênait ? Puisque finalement, l'instrument, tu t'y es intéressé, et puis tu as eu la démarche d'aller voir les autres pour en savoir plus, pour essayer de connaître cet instrument. Est-ce que c'est pas plutôt le côté académique de l'apprentissage qui te gonflait sérieusement ?
Ben,
que le simple fait de pas vouloir en faire finalement puisque
ben en fait pour enfin je suis pas sûr d'avoir vraiment pensé la chose de façon très psychologique ou autre, c'est les événements sont succédés un petit peu comme ça, mais je viens d'une famille au sein de laquelle la musique est très importante. Ma mère est professeure de musique, mon père est professeur d'histoire géo mais a fait de la musique depuis tout jeune, donc ma sœur et moi avons baigné dedans depuis tout petit, et je sais pas, peut-être que c'est un refus, il faudrait analyser ça avec un psychanalyste.
On est là pour t'écouter.
C'est très intimidant d'ailleurs.
Non, faut pas.
En même temps,
fixe deux secondes Marius, tu verras, c'est plus du tout intimidant.
En même temps, l'idée d'être musicien professionnel t'est venue assez vite, puisque nous on s'est rencontrés sur les bancs de la fac, et déjà à l'époque... ton obsession, c'était être musicien professionnel. Tu ne voyais que par ça. Et on se demandait d'ailleurs ce que tu foutais en fac de géographie. Mais en même temps, c'était...
Pour faire comme papa.
C'est bien que tu te souviennes de moi, effectivement, parce que je séchais à peu près autant la fac que les cours de
tout
Bernard Bigot. Donc voilà, effectivement, je ne sais pas. En fait, sortant d'une famille de profs, j'ai l'impression en fait, que j'ai suivi la trajectoire normale d'un enfant de prof qui est de faire des études. Et peut-être d'enseigner au bout, je sais pas. Donc voilà, mais c'est vrai qu'assez vite, je me suis rendu compte que voilà, la géographie c'était super intéressant et je m'y intéresse toujours énormément.
Moi aussi.
Mais à titre personnel, voilà.
Mais à l'époque, c'était quand même une sacrée obsession. C'est-à-dire que toi, dès qu'on discutait avec toi, c'était moi, je m'en fous, je serais musicien professionnel. Tout ça me fait chier. Donc,
j'étais déjà monomaniaque.
Voilà, un peu. Et moi, je trouvais ça assez fascinant, quoi, d'avoir une détermination aussi prononcée.
C'est ce qu'on appelle une passion.
Voilà.
Mais moi, je me rappelle parce que toi, tu voulais travailler absolument au département à l'époque.
c'est pas faux. Voilà. À l'époque, moi, je rêvais aussi d'être musicien, mais j'avais pas le talent.
Oh. Tu l'as maintenant.
maintenant.
Faut pas dire ça. Faut pas dire ça.
Moi, j'aurais dit le contraire. Justement, maintenant, c'est trop tard.
Exactement. Exactement.
Bah, j'ai, oui, lui, Mister Lui. J'ai une question. C'est quand tu as repris la guitare, ça, au moment où tu as donc t'as laissé tomber la guitare, tu l'as reprise.
Ouais.
Tu as attaqué par l'électrique ou tu as attaqué comment ça s'est passé? Parce que je sais que tu as eu un passage par l'électrique avant, aujourd'hui, maintenant, de consacrer peut-être exclusivement,
oui,
peut-être, je sais pas, à la.
Ah ben c'est-à-dire qu'effectivement, entre la guitare irlandaise de Bernard Bigot quand j'avais 10-11 ans et mes premières véritables amours guitaristiques, il y a un grand écart. Effectivement, c'était avec des guitares électriques, si possible avec des formes les plus biscornues possibles.
Voilà, des sons très saturés.
Des sons très, très distordus aussi. J'avais les cheveux longs, je portais le moule burne.
Tu portais du spandex.
Iron Maiden style.
J'avais la panoplie, voilà. Ce qui faisait pas de moi quelqu'un de très populaire auprès de la gente féminine, mais.
On y revient. Non, mais c'est marrant.
Non, mais c'est ça, c'est le moteur au départ.
C'est marrant parce que. Alors, moi, je te connaissais, mais une description orale.
D'accord.
C'est-à-dire que. Christophe, qui est là, gentil public.
Notre public, bonjour public.
À l'époque, prenait des cours avec toi.
Tout à fait.
Donc, il nous parlait de Gaëdic. Ouais, j'ai fait ça. Et effectivement, moi, j'ai le souvenir de toi donnant des cours avec des lignes plus peut-être blues à l'époque.
T'as un micro,
toi. Du rock ou de...
Ah non, c'est...
Toujours dans le micro.
C'est pas fort, toi.
Le micro était coupé.
Tout style, c'était surtout pas académique et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu en fait.
Moi c'est ce que je trouvais intéressant, ouais. Ce que tu disais, c'est que tu disais tout à l'heure en fait la technique, enfin j'ai appris par moi-même. Mais moi effectivement je me souviens pour le coup, puisqu'en fait quand Christophe parlait des cours qu'il avait avec toi, c'est-à-dire que en fait tu as fait ce passage pédagogique, enfin ce passage peut-être que tu donnes toujours des cours, je sais pas. En tout cas pour les cours que tu donnais à l'époque, je sais ce qui était très inspirant, c'était la façon dont tu abordais l'instrument. Je me souviens de ça.
Ouais, moi en fait, c'est peut-être ce qui m'a quand je dis que ça a été une rencontre importante, c'est-à-dire que tu t'étais pas dans un comment dire un. Je dispensais pas forcément un cours.
Il y avait
tout le lien très important à suivre, etc. Tu vois, au niveau du travail particulier, mais il y avait surtout des clés qui étaient, enfin, des clés qui te permettaient de te construire par la suite. Donc je pense que c'était ce
T'avais
qui était.
Pas un carcan quoi qui voilà, te bloquait.
Ouais, mais alors c'est.
Juste pour répondre sur ce que tu disais tout à l'heure sur le côté académique ou pas d'un cours. Du coup, là, je trouve que. Ça te permettait de te construire, voilà.
La musicalité, ce genre de choses-là, tu veux dire.
Et du coup.
C'est bien de l'entendre, hein. C'est vrai que. Mais ça permet aussi de comprendre les raisons pour lesquelles j'en suis là où j'en suis actuellement, à savoir. Moi, j'ai eu un apprentissage personnel de la musique, et ensuite, la transmission était essentiellement orale. J'évitais le solfège et pour cause parce que je le connaissais très peu. Les musiques que je joue beaucoup aujourd'hui, qui sont souvent des musiques du monde ou des musiques inspirées des musiques traditionnelles, c'est des musiques de tradition orale. Et c'est pour ça que le switch entre ce que je faisais à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui s'est fait très naturellement.
Mais comment en fait ? Ouais, qu'est-ce qui a été le déclic ?
C'est des rencontres. Alors. On peut remonter très loin. Lorsque j'étais enfant à la maison, mon plus vieux souvenir de musique, c'est l'album Harvest de Neil Young. Donc je pense qu'il y a pire comme référence musicale. Il y en a, c'est Chantal Goya. Moi, c'est Harvest.
Moi, c'est Chantal Goya.
J'ai peut-être un petit peu plus de chance que ça.
Tu as écouté Charles Dumont un peu, non? Parce que
à l'époque, non, beaucoup maintenant. Non, mais donc il y avait ce pan musique folk, rock, blues américaine ou en tout cas anglo-saxonne d'un côté, et de l'autre côté c'était la pleine époque de ce qu'on a appelé le revival folk, donc avec des groupes
Simon & Garfunkel.
Mais alors oui, mais le revival folk en France c'était essentiellement des musiques traditionnelles, donc à l'époque c'était Trian, Alan Stivell, Malicorne, celtique
oui.
Ou pas Malicorne par exemple, c'était pas spécialement celtique, mais c'est vrai que on écoutait beaucoup ça, et je vais pas dire que la boucle s'est bouclée parce que ça voudrait dire que les choses sont finies, mais en tout cas je pense que ça n'a pas été pour rien voilà, j'en écoutais déjà petit des musiques traditionnelles ou des musiques du monde. Donc voilà.
Ok.
En gros.
Et à un moment, t'es passé directement. Enfin, quand ce que tu expliques, mais les rencontres se sont faites progressivement. Le moment où tu as décidé de passer sur j'ai le projet que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire l'histoire de la guitare, d'arriver sur ce projet professionnel avec des spectacles, avec une pédagogie. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser derrière. C'est l'aboutissement de tout ça. C'est un passage. C'est comment tu le situes?
Alors, je pourrais te répondre de deux façons. Une façon fantasmée, on va dire, et puis une façon qui est beaucoup plus proche de la réalité, qui est que les choses se passent, les événements s'enchaînent de façon finalement assez aléatoire. C'est lié à des rencontres, c'est lié à des choses purement statutaires. On peut en parler, c'est vrai que quand on aborde le sujet de la musique, on parle souvent de la passion, on parle souvent d'élan, et c'est des choses qui sont évidemment là, on peut pas en faire sans ça. Mais en fait, très souvent, l'évolution artistique des musiciens se fait tout simplement pour des raisons statutaires. C'est-à-dire que nous, on est soumis à, quand je dis nous, c'est les artistes de scène, à un régime spécifique à la France, l'intermittence du spectacle, qui est que on est astreint à avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des cachets, et à échéance, en fait, le dossier est examiné par Pôle emploi. Et donc, il y a beaucoup de gens, ça fait pas rêver ce que je dis, mais c'est une réalité, hein. Il y a beaucoup de gens qui dont la vie artistique est portée par le fait qu'ils sont appelés pour un projet ou pour un autre, et finalement des bifurcations se font souvent sans qu'on ait prise dessus. Alors moi j'ai pas échappé à ça au début, mais si ça avait été ça longtemps, je pense que j'aurais pas tenu, en fait. Voilà. Et donc, les choses se sont faites avec des évolutions, donc j'allais dire statutaires, mais aussi par goût, par rencontre. C'est énormément des gens qui vont nous contacter, des gens qu'on va aller voir et qui avec lesquels on va avoir envie de jouer. C'est une suite d'événements fortuits. Voilà. Mais encore une fois, c'est vrai que sans passion, c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent, mais moi je pourrais pas. En fait, j'aime trop la musique pour la galvauder et pour en faire à la limite, je préférerais ne pas en vivre et le garder comme passion en ayant un métier à côté.
Et c'est ce que j'ai décidé de faire, moi.
Voilà. Donc c'est vraiment un choix. C'est pas une question de talent, Christophe. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Non, en fait, c'est pas un choix.
Mais toi, Christophe, t'as choisi de faire la musique, mais sans avoir de métier à côté, en fait.
C'est vrai aussi.
Non, mais par contre, pardon.
Oui, vas-y. Non, mais lui, vas-y. Ah bah,
je fais gaffe à pas monopoliser non plus les questions. Hein, c'est,
bah, t'inquiète pas.
Pour occuper le terrain. Mais tu arrives quand même à concilier ce que tu disais là, quand même malgré tout la passion et le quotidien.
Ah oui. J'ai une chance incroyable, vraiment. Et quand je vois le si je dis le marasme, je pense que je suis pas très loin de la réalité. Le monde culturel est décimé actuellement. Alors c'est ni plus ni moins le reflet de notre époque, de notre société. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des arbitrages budgétaires à faire en haut lieu,
c'est la culture.
Et il est évident que la culture va trinquer en premier. On pourra en discuter, mais tout en faisant partie du monde culturel, il y a une partie de moi pense que c'est pas totalement incongru. Même si la culture est évidemment très très importante, hein. Mais et donc ce marasme engendre des réalités quotidiennes pour beaucoup d'entre nous, musiciens, comédiens, des choses pas terribles, quoi. Et moi j'ai cette chance, je sais pas à quoi c'est dû, hein, mais j'ai cette chance de ne faire que des choses que j'aime, ce qui évidemment me permet de nourrir quasiment chaque jour ma passion pour les instruments, pour la musique. La lutherie, c'est...
Ben justement, c'est peut-être parce que ton projet et ce que tu proposes au public, c'est quelque chose qui a le mérite d'être original et en tout cas qui peut sensibiliser un public assez large, puisque tu proposes donc un spectacle qui utilise des instruments qui sont pratiquement pas utilisés ou en tout cas vus dans
inconnus même pour certains.
Et tu joues avec eux et tu les présentes et tu suscites forcément les curiosités. Donc, de par ça, je pense que ce que tu proposes, c'est assez original et unique, peut-être.
C'est peut-être précis.
C'est ce qui fait ta différence, c'est ce qui fait que. Enfin, je sais pas si je me fais.
C'est peut-être préciser le concept du spectacle, parce qu'on en parle du spectacle sans savoir. Enfin,
voilà.
Tout le monde a eu
un avant-goût avant l'enregistrement, donc on se comprend.
En gros, le concept de ce projet, en gros, tu pourrais nous le résumer en quelques mots?
Alors, oui. Donc, ce projet s'appelle Histoire de guitare, histoire et guitare au pluriel, et pour cause. Donc c'est je sais pas si c'est un spectacle parce qu'il y a une dimension entertainment dans spectacle, mais bon j'essaye en tout cas, voilà, show à l'américaine. J'essaye de faire en sorte que ce soit interactif en plus et puis que ce soit pas trop sérieux parce que ça pourrait vite devenir barbant. Mais en gros le principe c'est de couvrir d'un côté l'histoire de la guitare. Et dans un second temps, en fait, de couvrir aussi les développements contemporains des différentes utilisations de la guitare dans les cultures du monde, en fait.
Comment ça se passe concrètement ? C'est une trame, c'est une histoire, ou c'est tu présentes les instruments les uns après les autres ? C'est pédagogique ? Enfin, ça se.
Alors, quand on me demande un petit peu de définir le spectacle, j'ai tendance à dire c'est un spectacle en T. Un T, donc avec une partie verticale qui est une partie historique, on va dire, et chronologique et dans l'ordre. Voilà, donc ça part des instruments du haut Moyen-Âge, enfin du 10e siècle, jusqu'aux instruments futuristes en carbone. Alors, pour l'instant, je me suis borné, et déjà c'est incroyablement vaste, aux instruments acoustiques. Donc on pourrait extrapoler très largement avec les instruments électriques, mais je pense que ça mériterait un spectacle en soi aussi. Donc voilà. Donc ça c'est la partie verticale du T, et puis ensuite une partie horizontale qui est une partie donc contemporaine, l'utilisation de la guitare et des guitaroïdes et des cousins de la guitare dans les cultures du monde. Et en fait, comment on est passé du fait que la guitare a été historiquement un instrument absolument mineur, déconsidéré absolument, il y a des phrases lapidaires sur la guitare jusqu'au 19e siècle qui sont confondantes quant à son importance, qui était absolument nulle.
Par rapport à quel autre instrument, le violon?
Oui, par rapport... alors déjà, donc la guitare fait partie des instruments à cordes pincées, et il y a les instruments à cordes pincées nobles, c'était les luths, en fait. Pour faire simple, la société qui était, qui l'est sûrement encore toujours, mais très misogyne à l'époque, donc réservait l'utilisation du luth aux hommes, et des guitares anciennes, alors la guitare Renaissance, les vihuela, donc qui sont les ancêtres de la guitare, plutôt pour les femmes. Donc c'est des instruments avec très peu de son, c'est des instruments de chambre. Pour faire simple, les femmes jouaient entre copines en chantant des guitares de l'époque.
C'était bien quand même. Pendant que les hommes se tapaient le luth.
Exactement. Mais en plus,
c'est tout à fait normal.
Quand on connaît le luth, ça sonne finalement pas plus fort.
D'accord.
Voilà, il y avait juste plus de cordes. Voilà. Mais enfin bon, la guitare, c'est un instrument absolument pas noble, qui sonnait pas, il y en avait pas dans les orchestres. Donc les instruments nobles, c'était d'un côté les luths, ensuite il y avait les cordes frottées. Les vielles, viols de gambe, les violons, la voix aussi beaucoup, hein, l'orgue, les clavecins, voilà. Mais la guitare, presque jusqu'au début du XXe siècle, est un instrument absolument mineur et déconsidéré.
Voilà. C'est étonnant que le luth, lui, par contre, et je dirais aujourd'hui, c'est pas qu'il est plus... il est beaucoup moins répandu.
On pourrait presque dire que c'est un instrument mort. Alors, oui, encore une fois, les luthistes me tomberaient sur l'orable si je disais ça, mais c'est vrai que la réalité contemporaine du luth, elle est très ténue, en fait. Alors que la guitare est arrivée au panthéon des instruments au monde. Je ne sais pas s'il existe un instrument qui est plus joué que la guitare. Peut-être
la flûte
que oui.
À bec, à l'école.
C'est ce que j'allais dire. Peut-être des flûtes.
Pas, je crois.
Peut-être des flûtes ou des percussions, mais. En tout cas, la guitare est au panthéon de la musique dans le monde sous toutes ses formes. Hein. Donc voilà, que d'évolution. Voilà, et ça m'a beaucoup intéressé en fait.
D'accord.
Juste alors, je vais je peux poser peut-être une question super idiote.
Tu me fais chier avec tes questions idiotes.
Fais-le.
Non mais tu parlais là des femmes qui n'utilisent, enfin à qui on octroyait le droit de jouer tel instrument. Ça a un rapport avec le shamisen au Japon ou pas du tout? Par exemple.
Je suis qu'un spécialiste très moyen du shamisen, mais en l'occurrence, c'est une très bonne question. Et je me renseignerai.
C'est un chat avec une misaine, un mâle misaine en fait.
Bah moi, si tu veux, ça, quand dis-moi. On parle d'un instrument à cordes, j'ai toujours cette image depuis que je suis petite. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû au manga parce que j'aime bien. Tu vois les gaïchas, elles sont spécialisées pour faire plaisir. Là, oui. Donc c'est un instrument à cordes. Il y a peut-être 3 ou 4 cordes à peine. Et en fait, le médiator ressemble à une spatule de crêpe. Je sais pas comment l'expliquer. Et j'avais cette image, j'ai cette image-là. C'est pour ça que je me dis ce que tu dis, Gaëdi. Je me dis ça peut-être un lien. Pourquoi il n'y a que les femmes qui jouent de cet instrument?
Alors, en l'occurrence, il n'y avait pas que des femmes qui en jouaient, mais c'était et puis il n'était pas histoire d'interdiction formelle. Hein, c'était plus la réalité de ce qui se passait en fait. Hein, les hommes jouaient du luth, les femmes plutôt des guitares. Mais voilà, à l'époque, les instruments nobles, donc c'était luth et aussi très important les mandolines.
Ah oui.
Il y a un nombre de pièces musicales. Bon, les plus connues sont sûrement de Vivaldi. Pour mandoline, à l'époque, c'était un instrument très, 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 très à la mode. Hein. Donc voilà. Ça se passe bien.
Mon
voisin mange un beignet.
Excellent.
Outre histoire de guitare, tu joues dans d'autres formations. Octantrion, je crois.
Et tout à fait.
Wenda.
Venta.
Venta.
Voilà.
Est-ce que ces projets, ils ont un lien avec Histoire de guitare ou pas, ces deux autres projets? Parce que je crois que c'est des musiques un peu, je sais pas comment dire, un peu traditionnelles.
Alors, pour Octantrion, oui. Pour Venta, pas du tout. En l'occurrence, il y a un lien parce que, par exemple, pour Octantrion, donc, il y a un duo que je mène avec Éléonore Billy qui joue des instruments du nord de l'Europe, donc nickel harpa, qui est une vielle à archet suédoise. Le Hardingfele, qui est le violon du Hardanger, un violon norvégien. Les auditeurs peuvent aller sur le web pour trouver des liens. Donc, il suffit de taper Nickel Harpa, Octantrion, Léonore Billy, Guédic Chambrier, enfin, on trouve plein de choses. Et donc voilà. Alors, il y a un lien parce que j'utilise en partie des guitares avec Octantrion. J'utilise aussi des mandoles, des sistres, voilà, qui sont des cousins de la guitare, en fait, à cordes pincées.
Mais justement, quand je disais lien, c'est-à-dire qu'est-ce qui est né en premier? C'est-à-dire, est-ce que c'est les groupes traditionnels comme Octantrion qui ont amené à développer un projet comme Histoire de guitare, ou c'est l'inverse? Histoire de guitare qui a amené à créer des
alors,
groupes.
Histoire de guitare, en fait, encore une fois, je vais peut-être faire tomber quelques mythes autour de la création de ce spectacle. Il est né avec des raisons très prosaïques, en fait, qui est tout simplement que, étant amoureux des instruments, j'en avais des caisses et des caisses et des caisses à la maison. Et je passais mon temps à hurler en parallèle contre les collectionneurs qui accaparait les instruments au détriment des musiciens et qui entretenait notamment une spéculation sur le prix des instruments qui faisait que beaucoup de musiciens très très valeureux sur leurs instruments n'avaient pas les moyens de se payer de bons instruments. Et puis il y a un moment, je me suis dit, mais attends, tu vitupères contre les collectionneurs, mais tu fais quoi toi là?
Tu fais pas la même chose.
Non, mais c'est exactement ça.
D'accord.
Et là, je me suis dit, c'est pas possible quoi. Faut que je me serve de ces instruments. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement essayé de, c'est pas un très joli mot, mais c'est pourtant le terme, de rationaliser mon instrumentarium. C'est-à-dire que j'ai fait un peu le point, j'ai mis en vente les instruments que j'avais en doublon, triplon et tout ça, et j'ai fait l'acquisition de tout ce qui me manquait. Pour arriver à avoir une collection d'instruments cohérente à présenter aux gens.
D'accord.
Et donc, Histoire de guitare, c'était un moyen pour moi de présenter tous ces instruments aux gens, et donc que ces instruments vivent.
D'accord.
Voilà.
Oui, Didoui.
Oui, mais alors, moi, je suis très curieux sur... alors, la guitare, c'est une chose. Hein. Tu dis que tu n'as pas pris de cours, tu es autodidacte et tout ce qui s'ensuit. Alors là, tu nous parles de sistres, de mandolines, d'autres instruments qui sont des instruments qui datent du Moyen-Âge et tout ça. Tu parlais effectivement de l'apprentissage par voie orale et tout ça. Donc, j'imagine que T'as dû découvrir des instruments, t'entraîner comme un fracas sur, parce que jouer du sistre ou de la mandoline ou même du oud ou je ne sais quoi, c'est pas la même approche que la simple guitare classique ou même électrique. Et tu parlais de rencontres, il existe donc encore des gens et toi t'es suffisamment curieux pour être aussi autodidacte sur le fait de jouer de ces instruments qui sont assez vieux finalement.
Oui, et puis juste pour compléter ce que tu dis, c'est que c'est, en plus la passion tout ça c'est bien, mais en pratique
c'est un boulot énorme.
En pratique,
tu rencontres les gens, ça a été des rencontres, de l'apprentissage avec d'autres personnes. Comment ça se fait?
Oui, j'ai beaucoup observé. Je me suis lancé. J'ai été voir des gens que j'admirais beaucoup, en ayant l'outrecuidance de leur poser mes petites questions. Un certain nombre d'entre eux, ils ont eu la gentillesse de bien vouloir les considérer comme des questions qui n'étaient pas totalement imbéciles. En tout cas, ils ont bien vu que moi, ça allait me servir. Et voilà. Maintenant, il faut savoir que tous ces instruments, c'est quand même des instruments cousins. Et puis, on va arriver aussi à un nœud, en fait, qui est très important et qui est valable sur tous les sujets. C'est l'éternel dilemme ou dichotomie entre spécialiste et généraliste. Voilà. Moi, j'ai pas la prétention sur chacun des instruments que je joue. De donner des leçons aux vrais joueurs de sistre, de mandole, de oud. Voilà, il y a des gens qui sont spécialistes de chacun de ces instruments. Et ils sont évidemment respectables pour ça. Moi, le travail qui est le mien avec ces instruments, c'est un travail de vulgarisation. Vulgarisation, j'essaie de le faire au sens noble du terme. Il ne s'agit pas de jeter comme ça un vague morceau aux gens, un ersatz de morceau. Voilà, je fais vraiment de mon mieux pour essayer de respecter les styles. Sur un instrument médiéval, je vais jouer un morceau médiéval. Voilà, mais c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les gens découvrent les guitares en contexte, voilà. Chaque instrument a ses spécialistes et qu'il faut absolument aller écouter. Et si, juste pour terminer, parce que je vois qu'il y a des doigts qui se lèvent, le fait que les gens me voient, ça donne envie aux uns ou aux autres d'aller voir un peu plus loin sur tel ou tel ou tel instrument, eh ben il y a des spécialistes et dans ce cas-là, mon but sera atteint, quoi.
Et du coup, t'as un retour par rapport à ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, après avoir vu le spectacle, je me suis mis aux luttes, je me suis mis à d'autres trucs?
C'est difficile parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la vie de musicien, c'est un peu une vie de bohème. On est à droite, à gauche. On fait plein de belles rencontres. Quasiment à chaque concert, c'est l'occasion de faire des rencontres très sympas et qui sont en même temps très éphémères. Alors, il arrive de temps en temps qu'on garde contact avec des gens et certains même deviennent des amis, que ce soit des gens du public, des organisateurs ou d'autres musiciens. C'est la joie de notre métier aussi. Mais malheureusement, pour l'essentiel, c'est des gens qu'on ne verra qu'une fois dans notre vie et donc on peut pas trop savoir. On peut pas trop savoir. Le seul retour, généralement, on l'a juste après le concert. Ou alors, il y a des gens aussi qui prennent la peine d'aller sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Et nous font des retours, donc oui, il y a sûrement des gens à qui ça a donné un petit peu de motivation, ou sans même parler de jouer, juste d'écouter, oui, tout simplement.
S'intéresser, hein, en fait, voilà. Déjà rien que ça.
Voilà, c'est déjà énorme, c'est simple et en même temps très très ambitieux, quoi. Bon, moi, je fais ce que j'ai à faire, je le fais du mieux que je peux avec toute la passion qui m'habite, et puis ensuite les gens se l'approprient.
Oui, Didouille.
Encore moi.
Vas-y.
Moi, je suis pas musicienne du tout. Hein. Juste, je me posais la question. Des morceaux que tu jouais donc sur des instruments anciens. J'imagine que les lignes mélodiques évoluent avec les époques aussi. De par le fait que ce sont des musiques qui n'ont pas forcément laissé de traces en termes de partitions, comment ça se passe? Est-ce que c'est parce que tu t'es imprégné de plusieurs morceaux que t'as entendus? Est-ce que tu crées toi-même tes morceaux par rapport à un style que tu as entendu? Parce que je me pose la question là.
Alors il y a les deux. parfois je compose dans l'esprit de Voilà, mais ça nécessite d'avoir quand même un assez grand savoir. Hein,
c'est pour ça que je, là, c'est respect total, total respect.
Oui, oui. Après, une fois, c'est toujours un petit peu ambitieux de composer dans l'esprit d'eux quand il y a des vrais spécialistes de chacune des époques et de chacun des instruments. Je le fais parce que ça me plaît. Après, voilà, ce que je fais beaucoup aussi, c'est prendre des thèmes traditionnels. Les sources sont extrêmement importantes, hein, que ce soit évidemment sur le web ou ailleurs. J'ai la chance aussi d'être particulièrement bien entouré, d'avoir des musiciens et des luthiers et des historiens de la musique de talent tout autour et qui me font bénéficier de tout leur savoir en fait. Voilà, souvent d'ailleurs j'essaye de faire valider par un tel ou un tel tel morceau. Ou... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bah, c'est une démarche très modeste en fait. Hein,
Pas tant que ça, je suis pas. Elle est modeste. C'est pour ça ce que je voulais dire. C'est une... Non, mais c'est... tu as raison. Non,
chieuse.
Non, c'est pas ça. Moi, je te trouve.
C'est une vanité incroyable, je veux dire.
Je te trouve. Non. Ça a été plus vite que ce que j'ai voulu dire. Oh. Non, je te trouve très modeste. Parce qu'en même temps, finalement. Tu mets pas en avant simplement des instruments, une musique. Enfin, tu proposes ta passion, tu la vulgarises, tu vulgarises la musique. Je trouve ça vachement bien. Mais on parle aussi des luthiers, donc c'est un artisanat quand même. Les luthiers, il y en a plus trop quand même. Ça demande un savoir-faire hallucinant. Non, il y en a beaucoup.
Il y en a encore beaucoup.
Ouais.
Bon, alors des spécialisés dans des instruments. Enfin, je sais pas. Enfin, toujours est-il que la démarche, je la trouve super parce que voilà, ça génère plusieurs savoir-faire, plusieurs compétences, que ce soit dans la musique, dans l'artisanat. Et je trouve ça super. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Oui, Mister Lulu.
Moi, je vais dire oui. L'approche est modeste, mais le résultat. Enfin, moi, c'est pas pour passer de la pommade dans le dos, mais le résultat quand même de ce que j'en ai écouté. Mais respect quand même. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même. Tu parles de vulgarisation, tu parles de généralisme, mais en tout cas, le but est atteint quand il s'agit peut-être d'aller toucher un public peut-être qui ne connaît pas. Et à mon avis, même au-delà, parce que sur le travail techniquement tel qu'il est réalisé, c'est nickel. Enfin, j'ai écouté quelques pièces que tu avais. Mm-hmm. Que t'as mis à disposition sur Internet. J'ai pas eu l'occasion de te voir en spectacle encore, mais de ce que j'ai pu écouter avec Octantrion ou toi, en fait, quand tu présentes des extraits de ton spectacle. Voilà, je pense que c'est ce que voulait dire Didouille, en fait.
L'homme
parle, c'est mieux tout de suite.
On sent effectivement.
Tu vas jouer de la guitare dans ta chambre avec tes copines.
Ouais, en tout cas, je
vais pas parler de ta guitare à toi. Hein.
Ma guitare à moi.
Que t'as abîmée, qui a la plus de vernis.
C'est pas le sujet.
Là, veut se venger.
Ce que je veux dire, c'est que on sent parler de passion, mais on sent aussi le. Il y a du boulot derrière et puis il y a...
Ah mais le travail a été énorme. Si, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, si j'avais pu imaginer un seul instant le travail que ça me demanderait en me lançant là-dedans, je pense que je ne me serais pas lancé dedans. Quoi. C'était,
ah oui.
C'est
titanesque.
Même encore maintenant, pourtant là ça fait quand même un certain nombre de fois que le spectacle est joué. En fait, il date de 2013. Hein, la première c'était début 2013.
D'accord.
Hein, donc c'est quand même un spectacle qui est très frais. C'est vrai que ça m'a occasionné des sueurs froides incroyables. Moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement traqueur quand je monte sur scène, mais là j'avais le bide noué, c'était terrible. Hein,
parce que tu disais là je suis en train d'occuper un terrain qui est habituellement occupé par des spécialistes, ou est-ce que c'est parce que c'était vraiment quelque chose de vraiment très nouveau ou,
Non, c'est parce que tout simplement, voilà, pour chacun des instruments, je viens sur scène avec 30 instruments.
Ouais.
Pour chacun des 30 instruments, il y a un spécialiste, enfin il y a des spécialistes de chacun des 30. Je parlais de démarche modeste tout à l'heure. Je veux rester modeste parce qu'évidemment, si on prend instrument par instrument, moi quand je vais jouer de la guitare flamenco, la guitare flamenca, d'ailleurs devant des spécialistes du flamenco, parce que ça m'est arrivé en plus
ça colle la pression. Mais c'est terrible.
Moi pour aller jouer du flamenco devant des gens dont c'est le métier, c'est quand même c'est terriblement intimidant.
Oui, mais la grosse différence, c'est ce que tu expliquais. Le but du jeu, c'est pas te dire que d'être tu spécialiste dans le truc, c'est que tu veux faire connaître.
l'instrument par le biais de
aiguiser une curiosité.
Voilà, c'est ça.
En même temps, ils sont pas intéressés par ta démarche, justement.
Si, 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 si.
Justement, est-ce que t'as pas un bon accueil de ce point de vue-là?
Si. Alors, j'étais assez circonspect sur l'accueil que j'allais recevoir dans les milieux professionnels, on va dire les milieux de la guitare en général, et puis des organisateurs aussi. Et je dois dire que à une ou deux exceptions près, je n'ai eu que des choses extrêmement positives. Ça m'a d'ailleurs considérablement conforté dans la démarche. Je remercie d'ailleurs les guitaristes des différents instruments que je peux aborder de m'avoir témoigné autant de sympathie, parce que ça a été pour moi comme une espèce d'adoubement. Oui, bon, c'est bon, je peux le faire.
Oui. Allez,
parce qu'ils ont compris que c'était une démarche, voilà, généraliste et qu'il s'agissait pas de venir marcher sur les plates-bandes d'un tel ou d'un tel. Mmh. Hein, donc voilà, c'est une démarche de passion, une démarche de gourmand de musique, d'histoire, oui. Et puis voilà quoi.
Et concrètement, du coup, le spectacle, tu le joues en festival, tu le joues, ça va être par exemple une collectivité qui peut faire appel. Comment ça se passe en fait? Par exemple, si
les scolaires, aussi,
les scolaires, comment ça se...
Alors,
qui peut faire appel à toi ou comment ça se passe? Voilà, concrètement.
Tout le monde, à partir du moment où il y a un max de thunes.
D'accord, ça marche.
Très bonne démarche, on valide.
Ah, voilà. Voilà.
Non, mais bon, il n'y a pas de règle. Hein. J'ai aussi bien joué dans le cadre de saisons culturelles que de festivals, que devant des enfants, dans des médiathèques. Voilà, c'est un spectacle qui s'adapte assez bien.
Très facilement.
Voilà. Et bon, j'essaye de faire en sorte... c'est toujours difficile de parler d'un spectacle, en plus, parce que c'est forcément toujours un petit peu froid, mais c'est vrai que sur scène, j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu interactif, qu'il y ait quand même quelques jokes, aux amis québécois. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas un cours magistral d'histoire de la musique, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, parce que là, on parle beaucoup d'histoire dans le sens chronologique depuis tout à l'heure, mais je tiens aussi beaucoup à parler justement des évolutions contemporaines de la guitare. C'est-à-dire que il y a presque plus de culture au monde aujourd'hui qui échappe à la guitare. Non pas que la guitare soit devenue l'instrument principal, mais si on prend par exemple le monde latino-américain, par exemple, chaque pays a sa guitare. Il y a des pays, si on prend le Mexique, si on prend le Brésil, dans les Caraïbes, Cuba, il y a plusieurs guitares, 4, 5, 6, 7 guitares par pays. Donc là-bas, vraiment, c'est pas un vain mot que de dire que la guitare c'est un instrument majeur, quoi. Hein, c'est... En Afrique.
En Afrique aussi, du coup. Ou en tout cas, il y a une différente façon d'utiliser l'instrument. Enfin, je sais pas. Sur France Inter, il y avait justement une excellente émission là-dessus.
Bon, c'est toujours délicat de dire en Afrique, hein, parce que évidemment, c'est toujours cette vision un peu lointaine des Européens envers l'Afrique, considérée comme un seul et même continent. En fait, il y a tellement de cultures différentes. Bon. Bah oui. Mais si on prend par exemple au Mali ou au Sénégal, dans la musique mandingue, par exemple, où il y a évidemment traditionnellement pas de guitare. Hein, Les musiciens contemporains se sont appropriés l'instrument sous toutes ses formes. Hein. Ils jouent sur des pelles infâmes. Et ils sortent des choses, mais absolument incroyables. Incroyables. C'est des leçons de musique qui nous donnent à chaque concert.
Sur des bidons.
Ah ouais, non, mais c'est des choses.
Des bidons avec des cordes, des trucs.
Et que ce soit guitare acoustique, électrique, enfin bref, des fois, il n'y a même pas toutes les cordes. Mmh. Et puis, certains jouent aussi sur des très bons instruments. Il ne faut pas tomber dans le cliché non plus de l'instrument pourri pour tous les gens qui en jouent là-bas. Mais il y a des choses incroyables, quoi. Voilà, c'est devenu un instrument qui permet l'expression moderne aussi de cultures très, très variées.
Et par exemple, dans le même genre, souvent du blues de Tinari Wen, par exemple, où eux, ils ont pris les guitares électriques et ils font une forme de blues. Enfin, c'est vraiment leur musique.
Oui, Ali Farka Touré ou des gens comme ça. Enfin,
ouais. Et toi, ce que tu parles de cette vision horizontale, c'est-à-dire que tu es là plus axé sur ce qui est l'aspect traditionnel ou tu explores aussi cette
Alors, je suis forcément un petit peu contraint par le concept à coller à ce qui se fait dans chacun de ces pays ou dans chacune de ces cultures. C'est-à-dire que, évidemment, sur un guitarone mexicain, je vais pas aller jouer un morceau lapon.
ça va forcément être un morceau mexicain. Alors, ça peut être un peu difficile d'échapper aux clichés parfois, mais bon. À la limite, la histoire de guitare en tant que telle, c'est un spectacle peut-être un petit peu didactique aussi. Donc, je me dois d'illustrer tel instrument avec le style musical qui va dessus. Mais c'est vrai que pour des envies futures, je songe vraiment à me servir de tout ça en m'appropriant un petit peu ce maelstrom d'infos. Et puis en essayant d'en faire quelque chose de personnel, quoi.
D'accord.
Je sais pas du tout quelle forme ça pourrait prendre, mais
t'as déjà des idées pour l'avenir, pour de futurs projets, de futures choses.
Ça n'arrête pas. J'aurais pas assez d'une vie.
C'est vrai. Ah.
Ça c'est sûr.
Eh ben, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la question.
Moi, je vais écouter. Moi, je suis curieuse.
Ce que je vous propose, voilà, c'est que Gaëdi, qu'il est pas venu les mains vides. Il nous a déjà un peu montrer deux instruments qui nous a amené.
Donc, présente au moins deux instruments.
Dont j'ai oublié le nom.
Ouais, donc, aussi, de toute façon, il y aura des photos. Hein,
on prendra quelques photos pour un petit peu montrer le truc. Donc, Gaëdic s'est proposé de nous jouer quelques petits morceaux par rapport à ça. Et puis, on va vous permettre d'écouter un petit peu ce qui se passe.
Oui, bon, maintenant, c'est parti. Donc, Gaëdic, tu vas nous jouer un morceau, là. Sur quel instrument vas-tu nous jouer ça? Dis-nous tout.
Alors, c'est un instrument. Bon, j'imagine qu'il sera sur le en photo sur le blog. C'est un instrument à double manche, donc fabriqué par un luthier avec lequel je collabore, qui s'appelle Patrick Kerleux, donc à Joinville-le-Pont, à côté de Paris, et qui est le magicien qui fait apparaître dans la vraie vie. Les choses bizarres que j'ai dans la tête, voilà. Donc il m'a fait cet instrument, il m'a fait une guitare baryton, il m'a fait une guitare harpe, on a d'autres projets encore ensemble.
Donc cet instrument n'a pas vraiment de nom, en fait, c'est...
Alors, nous on l'a appelé mandoterse, pour une raison très simple, c'est que le manche supérieur, c'est un manche de mandole, en fait c'est quatre cordes doublées, on appelle ça des chœurs, donc quatre chœurs, c'est un instrument en sol, donc à partir de la note sol, et en dessous c'est une guitare terse, T-E-R-Z. Donc c'est censé être une guitare à la carte normalement, donc plus aiguë qu'une guitare normale. Elle devrait donc être en la pour les spécialistes qui nous écoutent. Mais moi, je joue en accord ouvert, donc je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais bon, c'est une autre façon.
T'as bien vu le vide dans mes yeux là.
Voilà. Côté. Bref. Donc je joue en accord ouvert, c'est un accord en sol. Donc il y a le manche du haut et le manche du bas sont en sol, ce qui a un gros avantage. C'est que il y a des résonances sympathiques, donc des vibrations sympathiques qui sont transmises par l'air et aussi par la caisse. Donc lorsque je joue sur un manche, l'autre manche, en fait, les cordes du manche inférieur supérieur, elles vibrent aussi.
Ah oui.
Ça sert pas à rien, en fait.
D'accord.
Donc avoir un instrument double manche, ça a un intérêt parce que je peux passer de l'un à l'autre assez facilement, même très facilement. C'était d'ailleurs l'objet principal au départ et l'intérêt de cet instrument. Mais aussi, c'est très flatteur en termes de son. Parce que ça résonne de tous les côtés. Donc voilà. Et c'est Patrick Kerleux donc qui a fait cet instrument. Voilà, Patrick Kerleux que je salue. Peut-être qu'il écoutera.
On espère.
Cette blog.
On espère,
ouais, en tout cas, je mentionnerai son existence.
Très bien.
Bon, on va t'écouter alors.
On va écouter. Maintenant.
C'est parti. Go. Yeah.
superbe.
Ouais, bravo, bravo, bravo.
Super. C'est dingue parce que la sonorité, elle fait ancienne. Je trouve que le morceau, il fait vachement moderne. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis.
Alors, non, mais c'est non seulement très clair, mais en plus, mais ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est en une phrase, tu viens de résumer ma démarche.
Ah, oh yeah. Voilà. J'ai tout compris. Voilà,
exact,
non mais c'est vrai.
Exactement.
Parce que c'est une compo.
Alors, justement, c'est donc il y a la première partie, c'est des phrases personnelles. Enfin, je fais jamais vraiment la même chose à chaque fois. Et puis ensuite, c'est un morceau traditionnel suédois, donc d'accord. On pourrait être dans la musique traditionnelle, mais interprété de façon personnelle. Donc moi, d'accord. J'y ai mis mon histoire musicale. Alors je me pose pas vraiment la question de savoir est-ce que je dois mettre mon histoire dans chaque morceau, mais c'est un fait. En fait, je le joue. Hier soir, le groupe Octantrion, le duo Octantrion, donc avec Eleonore Billy, on jouait à Paris. Et il y a eu plein de réactions très très gentilles des gens après le concert. Et j'en ai eu beaucoup moi de gens qui venaient que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui me disaient mais vous avez pas fait que ça toute votre vie comme musique, c'est pas possible. Sous-entendant par là même que j'avais une façon assez rock'n'roll de jouer. Et je pense que c'est le cas, et c'est quelque chose que je cultive.
C'est ce qui fait l'originalité.
Oui, voilà. C'est ça, ouais.
Enfin, en tout cas, c'est ce qui fait ton.
Exactement. Alors, c'est aussi pour ça que lorsque on me dit que je fais des musiques traditionnelles, je mets un petit bémol, et c'est le cas de le dire pour la musique, parce que en fait, il y a des gens qui le font très bien. Parce que la musique traditionnelle, souvent, c'est associé à la danse, aux danses traditionnelles, et c'est un vrai métier. Que de savoir faire danser les gens avec des musiques traditionnelles. C'est quelque chose que je sais pas faire, moi. J'ai jamais appris à le faire, voilà. Et je pourrais toujours faire illusion sur quelques morceaux, mais voilà. Je pense que l'intérêt d'un duo comme Octantrion ou éventuellement qu'on vienne m'écouter jouer, c'est justement toute cette palette de vie musicale par lesquelles j'ai pu passer, qui se sont réunis au final en un morceau, on va dire quoi. Donc voilà, c'était une très bonne remarque.
Merci Didouille. Hein. Et j'aurais été curieuse d'entendre le son du deuxième manche.
Alors le son du deuxième manche, donc. Donc ici on a des cordes doubles. Ça s'entend. Généralement c'est accordé. Alors que là c'est des cordes simples. Entendez ?
Ouais, carrément.
Ça résonne carrément.
Et donc, voilà. Il a bloqué les cordes du bas, voilà. Et on entend vibrer les cordes du haut.
Tu alternes quand tu joues avec cette guitare, tu alternes les deux manches ou généralement tu joues une pièce sur.
Il n'y a pas de règle. Des fois, c'est l'un puis l'autre, l'un ou l'autre, éventuellement l'un et l'autre. Oui. Mais il n'y a pas de règle.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, et puis comme je suis venu avec un autre instrument, alors bon, le temps passe, je vais pas vous le jouer, mais je vais vous le décrire et vous le verrez, vous le verrez en photo.
Oui. Ah, c'est dommage, j'aurais été curieux celui-là.
Donc, oui, aussi un petit morceau. Quand
ah ouais,
même.
Rien, un tout petit bout de rien, ouais.
Marius, tu fais l'assistante. Juste pour voir comment ça sonne, quoi.
Le seul souci, ça va être de le sonoriser. Parce que c'est là, je vais me brainer dans les.
Merde, le bois.
Très très bel objet, en tout cas. Avant de parler de l'instrument.
Et on dirait une tête, tu sais, qu'il y avait dans les Drakkars vikings.
Ah ouais.
Regarde la tête.
Ouais. C'est juste en fait, histoire de voir la sonorité. En fait.
Ouais, il faudrait que quelqu'un mette le micro devant. Ouais, parce qu'il ne va pas tenir là.
Je vais tenir moi.
Il est très bon, Lulu, au micro.
Une petite gestion logistique.
Tu vises à peu près là.
D'accord.
Au coin de la rosace.
C'est beau.
Donc, cet instrument, c'est une sitole. Donc c'est un instrument médiéval, ça s'appelle une sitole feuille de houx, tout simplement, parce qu'elle n'est pas sans rappeler une feuille de houx, très simplement. Donc c'est un instrument typique du nord de l'Europe, aux alentours de 1300. Voilà. Donc traditionnellement, les cordes sont en boyau ou en métal. Voilà. Et ici, en fait, c'est un matériau qu'on appelle le Nilgut, qui est un boyau synthétique, en fait.
Très très sympa. C'est très très chouette.
Voilà, alors donc cet instrument, il a une caractéristique de base majeure, c'est que c'est un instrument monoxyle.
D'accord, okay.
Monoxyle
de carbone
qui est dans une seule pièce de bois.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend de la tête jusqu'au bas de l'instrument, en fait, c'est une seule pièce de bois. En l'occurrence, ça c'est du noyer. Donc le luthier qui a fait ça de si belle façon s'appelle Florian Jougnot. C'est donc, comme son nom l'indique, un Français, et qui est installé en Allemagne, mais très proche de Strasbourg. Et là, il va rapatrier son atelier à Strasbourg. Donc tout à l'heure, je parlais de ma collaboration avec Patrick Kerleux. Cette fois-ci, c'est la dernière collaboration en date. Florian Jougnot a eu la gentillesse d'associer son nom et son talent à Histoire de Guitare et va me permettre d'accéder à 5 de ses instruments.
Ah oui.
Donc 7 Citoles, donc typique du nord de l'Europe, mais aussi une guitare mauresque qu'on appelle une morache, j'ai pas les cités tous, hein, mais guiterne et autres. Donc quasiment un instrument par siècle. En allant du 10e au 14e.
Ah oui, en effet.
Donc, grâce à lui, je vais avoir la chance de pouvoir présenter aux yeux du public médusé.
je crois qu'il n'y a pas d'autre mot.
Comme nous sommes.
Non, mais des instruments absolument fabuleux. Alors, comme il le dit lui-même, ces instruments sont des recréations. Donc, en gros, les recherches sont toujours en cours pour savoir comment c'était réellement à l'époque, parce qu'évidemment il n'y a pas de plan, il n'y a pas de cote, voilà.
Ah oui.
Ces instruments sont reproduits d'après iconographie, donc d'après des vitraux, d'après des enluminures, d'après des bas-reliefs, d'après toute la statuaire sur les églises. Et donc voilà, et ça c'est un instrument en fait qui est en gros qui est tiré d'une statue sur la cathédrale de Strasbourg, pardon. Donc voilà.
D'accord.
Et donc il utilise des techniques et des bois locaux. Hein? Donc ça c'est du noyer
alsacien,
par exemple. Et je crois que ça c'est du pin du Jura et ça c'est du buis. Donc c'est que des essences locales.
Pour reproduire un petit peu ce qui se faisait à l'époque, de toute façon, en plus certainement les sonorités.
Exactement, exactement. Et c'est très intéressant de voir ces luthiers d'instruments anciens travailler parce qu'ils travaillent pour la plupart avec des, je sais pas si c'est des instruments d'époque, mais en tout cas c'est les mêmes principes. C'est un travail incroyable. Hein. C'est,
mais même les clés, là, même les clés sont en bois là.
Mais là oui, tout est en bois là. Il y a aucune pièce métallique. Là, il y a de l'os.
C'est choisi ou c'est pareil.
Les rosaces, c'est des rosaces traditionnelles. Hein. C'est pareil, c'est d'après. Et je pense notamment à Florian Jougnot, que je ne connais pas encore très bien, mais dont je recommande le site qui s'appelle Hortus Instrumentorum. Peut-être qu'on pourra mettre le lien.
Très bien, oui, pas de souci.
Voilà. C'est un travail d'historien, de luthier, de musicien, parce qu'il est aussi musicien. C'est des gens, moi, dont j'admire la démarche. C'est des puits de science. Je suis passé le voir au Salon de la musique ancienne à Vanves le week-end dernier. Et c'était un déchirement de partir, tant les instruments autour étaient magnifiques, les siens et ceux des autres luthiers, c'était absolument magnifique. Et je pense que si ces instruments étaient plus connus, ils remporteraient un succès phénoménal, parce que
en fait, que ça.
Ils sont peu connus, donc c'est ce qui fait, enfin c'est ce qui est le problème, parce que dès que les gens sont en contact avec ces instruments-là,
ça donne envie de les découvrir.
Mais
exactement,
c'est la aller avant, c'est la caverne d'Ali Baba là-bas. On a envie de rester, de se vautrer dans les instruments, avant, souffler c'était... dans les flûtes. De...
Dis-moi, c'était quoi ? C'était un festival de... C'était quoi ? C'était un salon, de lutherie.
C'est un salon de lutherie, ouais.
D'accord.
Un salon de lutherie. On, éventuellement, on pourra mettre le lien.
Ah bah
aussi,
je veux dire, oui, parce que c'est quelque chose qui est pas connu non.
Ben non, voilà, c'est intéressant.
Très connu, je pense.
Donc, je pense que c'est une fois par an avant, mais il faut savoir
qu'on est
que
un auditoire de malade, mais...
le milieu de la lutherie et de la musique ancienne, donc musique ancienne, c'est médiéval, mais aussi Renaissance. Ou du 17-18e siècle, c'est quelque chose de très vivant. Hein. Il y a tout un tas de réseaux. Voilà, simplement, c'est pas mainstream, ça passe pas à la radio.
Oui,
c'est, ça fait partie de ces nombreuses choses très intéressantes dont on nous parle jamais.
Je crois que Totof, il va nous quitter là.
Oui. Merci au public.
Merci au public. Salut
merci public.
Public.
À bientôt. Et, bah, et merci à Gaëdic pour cette. Moi, je dirais ce test en live.
Ouais, j'ai juste une question sur les instruments. Quel est le en termes d'instruments, le prochain, enfin le prochain projet ou le fantasme ultime.
Alors,
en termes d'instruments.
Je dirais que ce serait une guitare avec des cordes sympathiques.
C'est-à-dire
des cordes de résonance. En fait. Vous connaissez peut-être le principe du sitar indien joué par Ravi Shankar. Mm-hmm. Donc il y a un certain nombre de cordes dites mélodiques. C'est des cordes sur lesquelles on joue avec la main droite quand on est droitier et qu'on frette avec la main gauche pour changer les notes. Mais il y a tout un tas d'autres cordes en fait auxquelles on ne touche pas et qui résonnent uniquement par sympathie. Donc par les ondes transmises par l'air ou par la caisse. Et voilà, comme j'ai la chance de jouer avec Éléonore Billy, donc qui joue de ces instruments du nord de l'Europe, qui sont des instruments à cordes sympathiques, des instruments très résonnants, qui avec des réverbérations naturelles. J'ai pour fantasme de demander à Patrick Kerleux de me fabriquer une guitare avec des cordes sympathiques.
Okay.
Voilà.
Super.
Mmh. On sera curieux de voir ça, peut-être, d'écouter ça plutôt. Ouais. En tout cas, moi, je voulais remercier Didouille, peut-être.
Oui, juste, est-ce qu'il y a eu déjà un CD d'enregistré de tes prestations instrumentales ou pas ?
Alors, c'est en cours.
Parce que franchement, c'est scotchant, c'est bluffant.
Alors, déjà, bon, il y a un certain nombre de liens vidéo hein, qui sont accessibles très facilement via les plateformes de vidéo sur Internet. Ça c'est une première chose et puis il y a un disque et allez, osons le mot mon petit doigt me dit qu'il y aurait un DVD mais bon il y a tout un tas de contraintes de production, j'ai envie de faire les choses bien, pourquoi pas de m'entourer de gens qui viendraient jouer avec moi, enfin bon, et donc,
un DVD de d'Octantrion ou de l'histoire de guitare?
Les deux, mon capitaine.
Wow.
Octantrion, ça c'est sûr, ça se fait cet hiver. Et d'ailleurs, on vient d'obtenir un très joli partenariat avec le château de Villarceau, qui est un domaine juste à côté de là où j'habite, dans le Val d'Oise, avec une partie médiévale et une partie empire. Voilà, ça va être une belle collaboration parce qu'on va avoir accès à tout le domaine. Je remercie d'ailleurs le conservateur d'avoir accédé à notre demande. Et donc on va avoir l'occasion de tourner j'imagine, de superbes images là-bas. Le cadre est magnifique. J'encourage chacun passant dans la région à aller au château de Villarceau.
Et les projets, du coup, enfin peut-être tu voulais en parler. Vas-y.
Non, vas-y.
Du coup, oui, les futurs projets, donc projets de spectacle. On retrouve tout ça sur ton site.
Voilà. C'est pas toujours facile de tenir en temps réel les choses à jour, mais j'essaie de le faire quand même assez régulièrement. Voilà, effectivement, la vie musicale actuelle est riche. Il y a un certain nombre d'autres projets en cours à suivre sur gaëdicchambrier.com. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Hein, je ne sais pas si on les cite, mais bon.
T'es sur Facebook ?
Oui.
Bah, c'est
oui.
Notamment grâce à Facebook que Gaëdic est parmi nous aujourd'hui.
Tout à fait.
Exemple, merci Facebook.
N'hésitez pas à contacter les gens par ce biais parce qu'on voit que les gens... qu'on a envie de partager, bah, ils répondent.
Voilà, donc il suffit en fait via Facebook d'aller voir Gaëdic Chambrier, Octantrion, Histoire de guitare, Bohème ou autre.
On ira voir tout ça.
Voilà.
Très bien, bah, je mettrai les liens sur le billet de l'épisode et puis chacun ira un peu piocher ce qui l'intéresse par-ci par-là.
Ah bah, moi j'ai passé un super.
En tout cas, merci Gaëdic pour
merci
pour ce moment.
Merci
beaucoup.
C'était vraiment très sympathique cet échange. Et puis, on va reprendre un petit peu le cours habituel de notre émission avec la rubrique à briques, la rubrique fourre-tout. Et c'est parti.
Vous pour être
Alors c'est moi qui commence. Donc comme tout le monde le sait, autour de cette table, nous partons avec ma douce et tendre en voyage de noces aux États-Unis du 6 au 21 en passant par Los Angeles.
6 au 21.
Non, je peux pas le mettre dans la bouche, dis-nous, il a micro.
Mais non, mais pourquoi le... Non, mais on te donne pas de coup de fouet.
Mais on l'entend bien, Marius. Allez, vas-y, continue, l'écoute pas.
Je peux avoir au moins un petit coup de fouet.
Ouais.
Alors je disais, donc on va passer par Los Angeles, Phoenix, Las Vegas, San Francisco, ça c'est pour le côté fun de la chose.
Ah, c'est pour nous narguer.
Après tu as un côté chiant, vas-y, raconte-nous le côté chiant de ton voyage de noces.
Et donc, forcément un côté chiant, c'est Marius.
Après de longues, longues, très longues demandes d'aide autour de cette table, surtout sur la personne de Madame Didouille qui s'amuse constamment à parler anglais en ma présence, c'est bien oui.
What
après
do you mean, Flash?
Acharné, m'étant résolu à ne trouver aucun support de la dite personne précédemment citée dans l'apprentissage de l'anglais...
Qu'est-ce que tu
as Je me suis rabattu la mort dans l'âme sur ma tablette et j'ai trouvé Duolingo.
Ah, qu'est-ce que c'est Duolingo, qu'est-ce à dire
Duolingo, donc c'est
un rapport avec bilingue, duo, lingo.
Duo de langue.
J'adore,
roulage de pelle.
T'as toujours des questions comme
avec,
ça.
Avec l'or, non Duolingo avec l'or.
Bon.
Donc c'est une application qu'on peut retrouver sur Apple, Android et même sur PC, ouvert à toute personne masculine, féminine, de grande ou de petite taille, possédant au moins une connexion internet.
Donc c'est ouvert à beaucoup de gens, je dirais.
C'est ouvert à quasiment la totalité de la population mondiale, parce qu'on peut apprendre plusieurs langues. C'est vraiment bien fait. Alors moi qui n'ai strictement aucune base d'anglais, oui, il faut le rappeler, petit clin d'œil à entrée de générique,
une peluche à ma droite.
Une peluche à ma gauche, il est simplement là pour rappeler mes origines foraines qui m'ont écarté du cursus scolaire. Ceci explique cela.
Mais ouais. Tu sais...
C'est Charles Dickens, là.
Et donc voilà, bon, c'est une petite appli qui est très sympa, vraiment bien conçue. On peut débuter les exercices par la base. Et puis
donc en fait, c'est des exercices.
C'est des exercices.
C'est pas tu un, veux dire un que traducteur. Il est...
Depuis non, quelque non, temps, pas... tu sais conjuguer le verbe être au présent, c'est
donc,
ça.
Tu as commencé, non,
attends,
là, ou
attends,
pas
Allez pas trop vite.
Attends, ne lui cramons pas la surprise. Il va nous faire un truc là.
Attendez.
Attends, s'il nous parle en anglais, je me pisse dessus.
Donc,
t'es sur l'ampli basse quoi.
La bonne question de Mister Nico, donc qui dit oui, c'est des exercices en fait et des exercices différents. On a du coup, voilà, ils m'ont perdu. Ça y est, ça aurait été étonnant.
Mais elle est comment la fiche?
C'était tout le temps les mêmes exercices, ce serait un peu chiant.
Non, mais c'est quelque chose de vachement bien, ça devient assez addictif parce qu'on a une progression, on a des séries de 5 exercices différents qu'on peut avoir en. Vraiment, je suis perdu, c'est mort.
Non, non, c'est pas grave.
Hein. Non, alors, je peux peut-être aider. C'est sur des thèmes, c'est-à-dire que.
C'est sur des thèmes, ouais.
Par exemple, le transport, et à partir de ça, on te propose quoi? Des conversations, des échanges, ou c'est vraiment que des exercices structuraux?
C'est que des exercices, ouais.
Ouais,
au restaurant. Parle de la base. On a
l'apprentissage de la langue habituelle.
Les animaux, après les verbes, le possessif, le... Putain, qui servent à rien. Là, non, parce la manière de niquer mes chroniques.
Mais, non. Mais clairement, tu sais, Marius, je pense que tu apprendras plus vite à apprendre l'anglais.
Avec ça, oui,
non.
Avec toi.
Non, mais c'est quand tu seras aux États-Unis, parce que tu vas te faire violence avec ton oreille.
Il faut avoir un peu de base.
Oui, mais il faut une base. Il n'a pas de base du tout.
Comme je l'ai dit, il n'y a aucune base.
Tu as déjà parlé avec moi, Marius, en anglais. Tu t'es brouillé.
Oui, mais toi, tu parles pas anglais.
Tu étais bourré.
Tu vas en Chine sans aucune base,
non,
c'est
mais,
mort. Hein.
Bien sûr, mais oui.
Non, mais je parle d'un vécu, réellement, sans aucune base, vraiment aucune base. Ça va faire un mois et demi que je fais ce petit
truc. Écoutez, on veut entendre.
Alors, je veux écouter ton accent.
Attention.
Ouais.
Vas-y. Parce que maintenant je sais dire que the elephant eat bread and drink water, ce qui veut dire les éléphants mangent du pain et boivent de l'eau.
Effectivement, je suis pas sûr que ça te sert, ça par contre.
Qui devrait vraiment m'aider dans l'Ouest américain pour trouver une chambre d'hôtel.
C'est pas faux. C'était magnifique.
Non, mais voilà quoi.
C'était entre Harrison Ford et Marlon Brando.
Non, mais doublé, merci, hein. Marius.
Voilà, non. C'est tout. Ben, enfin, si ça donne envie à quelques personnes, on pourra laisser le lien à la fin.
Mais oui, bien sûr qu'on mettra le lien. Sûr.
Moi, personnellement,
non, moi, je voudrais savoir le prix de ton appli quand même.
Mais non, le truc, c'est que c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Et j'ai oublié de le mentionner. Très bonne question.
Ceci explique cela.
Voilà. C'est complètement gratuit.
C'est un bon rapport qualité-prix, en fait.
Le cursus complet est gratuit, donc je trouve que c'est vachement bien.
Est-ce que tu peux t'enregistrer?
oui. pour qu'il te dise si ton accent est bien oui. ou pas bien.
C'est vrai. Ah, tu dois bien. Répéter
ceci
des phrases.
Ceci dit, l'accent français aux États-Unis fait craquer pas mal de jeunes filles.
Non, mais il est en voyage de noces, il a pas envie de faire craquer les jeunes filles.
Enfin, bah, attends, ça, l'un n'empêche pas l'autre.
Quoique. Hein. The elephant brain.
C'est ça,
ouais. Hell water.
Oh, c'est, ça va marcher.
Drink. Non, non, il mange pas l'eau. Il mange pas l'eau, tu t'es gouré. C'est drink.
Voilà, c'est une très bonne appli. Et puis,
tu peux nous redire le nom de l'appli parce que du coup, ça m'est un peu passé.
Duolingo.
Duolingo, ok.
On mettra le,
on mettra le lien.
C'est marrant, c'est Duolingo, duo de langue. Mm-hmm. Étonnant.
Ouais. Étonnant. Ouais,
pour les rencontres.
Tout de suite, on se met déjà en condition pour la rubrique
de. Et sinon, films, tu regardes des films en VO sous-titré, tu apprends aussi l'anglais.
Mais je suis pas
ça.
Sûr, Didou.
Oui, mais si t'as aucune base.
Mais oui,
si tu n'as vraiment aucune base.
Mais non, oui, ça s'improvise pas. Mais oui, bien
plus, il nous reste.
De toute façon, c'est quand on voyage de noces, monsieur Marius.
Je suis
d'accord,
c'est en mai. D'accord.
Mais oui, il ne reste que 15 jours, donc le 15e jour, il sera bien se débrouillé. Mais tout ce qui
non, mais attends, si tu n'as jamais fait d'anglais ou une autre langue étrangère, tu n'as aucune base.
Et t'atterris où exactement?
Je propose qu'on voit en mois de juin les progrès effectués par Marius en anglais. Si l'éléphant s'est mangé autre chose que de l'eau,
on est d'accord.
Ça marche. Si on veut prendre les paris et l'anglais, sur chaque épisode que l'on pourra faire, je vais sortir une phrase.
D'ailleurs, alors, justement, un petit clin d'œil à Freddy, j'espère que tu nous écouteras. Est-ce que tu peux préparer un prochain quiz en anglais?
Oh, mais oui,
s'il te plaît.
Ah, tu l'as cherché, Marius.
No problem.
No problem. Yeah. Ok. One again. Eh ben merci.
Fly.
Merci Marius pour cette application. Je propose de passer la parole à Christophe.
Oui, si vous voulez.
Oui. Vas-y.
Donc moi je voulais vous parler d'un
Parle
magazine.
Parle bien dans ton micro, Monsieur Christophe.
Je voulais vous parler d'un magazine qui s'appelle.
T'es pas obligé de changer de voix.
Bites.
Oui, bonjour.
Non, parce que je risque de mal le prononcer en anglais, donc.
Ah non,
demande à Marius.
Donc Bites.
Bites. Ah oui.
Le magazine des cultures geeks. Bites. Je sais pas comment on dit.
Bites.
Bites.
Bites. Bites. Donc c'est un magazine qui est diffusé tous les mercredis sur arte.tv, donc pas sur la chaîne. Ça dure 8-10 minutes et selon les épisodes, on traite de l'actualité et de l'univers en fait au sens large des nouvelles technologies. Donc les sujets abordés vont plutôt droit à l'essentiel parce qu'en 10 minutes, évidemment, on ne peut pas trop détailler. Et c'est une sorte de lecture du monde contemporain, donc mêlant à la fois des images d'archives souvent modifiées, des commentaires, des interviews de spécialistes selon les sujets traités. Et le tout agrémenté d'une voix off assez fluide, explicite.
Féminine ?
Non, masculine. Et l'idée générale, en fait, c'est de dédiaboliser les mutations technologiques en prenant à rebrousse-poil quelques idées reçues. Donc je trouve que c'est très pédagogique, très ludique. Et le magazine trouve la bonne distance entre les gens qui sont déjà bien ancrés dans les nouvelles technologies et un public qui n'y connaîtrait rien, par exemple. Et donc, les non-initiés profitent des mises à jour, et puis les initiés goûtent plutôt des clins d'œil à des univers qui sont déjà ultra référencés pour eux. Ensuite, il y a des bonus qui sont accessibles, et l'originalité, c'est que pour accéder aux bonus, ça se fait sous forme de jeu, c'est une sorte de Tetris, c'est une espèce de gros module de bonus qui tombe de l'écran, et il faut les aligner, sinon vous n'avez pas le droit aux bonus. Donc ça peut être chiant au début parce que...
Ah oui, ça donne envie en fait.
Parce que...
Non, parce que... Putain, j'y arrive pas, bordel.
Ouais, voilà, c'était un peu ça au départ. Et puis en fait, on s'y fait rapidement. Et donc il y a 26 épisodes pour le moment. Donc 7 ont déjà été traités. Pour vous donner envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce magazine, le premier épisode a traité à travers du jeu GTA. Donc,
Grand Tourisme.
Grand Theft Auto.
Voilà,
c'est quoi?
Grand Theft Auto.
Grand quoi?
Le grand voleur de voitures.
Ça doit être ça. Et en fait, on montre en fait l'impact positif du jeu vidéo sur les apprentissages, notamment sur la prise de décision, l'adaptation à l'environnement, etc. etc. L'épisode 2 s'interroge sur les évolutions du cinéma virtuel à travers l'exemple de Gravity, pour ceux qui l'ont vu.
Oui.
L'épisode 3 montre le fait d'avoir recours aux émissions, aux émotions, pardon, dans les jeux, les films... Et tous les effets bénéfiques sur le comportement que ça génère. L'épisode 4, par exemple, s'attache au nouveau mode de consommation culturelle, notamment à travers le téléchargement illégal.
Adopi, si tu nous entends.
Et enfin, l'épisode 5 pose une question que je trouve assez intéressante. Elle dit clairement, la culture geek est-elle muséifiable tout en restant fun ? Et donc, elle parle notamment de l'ouverture du musée de l'art ludique à Paris, qui a l'air super intéressant. Mmh. En passant,
c'est des arts ludiques, je crois.
Bah, c'est de l'art ludique. Je crois que c'est de l'art ludique.
D'accord.
Au début, je pensais que c'était des arts ludiques, mais je crois que c'est de l'art.
Ou dollars. C'est pas des dollars.
L'épisode 6, bon, s'attarde sur l'invasion de l'imaginaire à travers notamment l'exemple du Docteur Who.
Ah bah oui, depuis 1960 qu'il existe, voilà. Mais en plus.
Et enfin, l'épisode 7, que j'ai trouvé assez intéressant, pose la question « Et si les œuvres de fiction populaire étaient en réalité des textes sacrés ?» Voilà, vous irez voir. Ils répondent assez bien à la question. Je trouve que c'est un magazine vraiment plutôt sympathique parce que bah, voilà, ça prend 10 minutes. C'est chaque mercredi. Donc, c'est sur bits.arte.tv.
Tu vois, tu parles bien anglais. Yeah. Moi, j'aurais dit TV, mais bon.
ouais, j'ai hésité parce que j'avais commencé par... Donc, voilà.
Ok, ne dis pas. Non, mais pour en avoir vu un dernièrement qui traitait justement de l'univers du Docteur Who, je ne sais pas si c'est le 6.
Parce c'est que le 6.
Un qui, je ne sais pas si c'est celui-là. Parce
c'est
que
le 6.
Il parlait plutôt du fait que le Docteur Who n'avait pas trop marché en France, etc. Mais j'ai trouvé que c'était, comme tu disais, un peu un... Bah, un petit peu comme le fait Gaëdic pour la musique, c'est une vulgarisation sans dénaturer vraiment le contenu initial, sans dire on va aller au plus simple et au plus bête, entre guillemets, hein.
Puis ça,
en faisant des raccourcis. Non, ça garde quand même quelqu'un qui connaît bien l'univers, ne se sent pas forcément floué.
Tout à fait.
Quelqu'un qui ne connaît pas a envie peut-être d'en savoir plus. Enfin, c'est comme ça que j'en ai vu un ou deux.
Il y a un côté décalé aussi qui est intéressant. À la fin de chaque épisode, il y a un petit peu comme peut le faire Ludo à la fin de chaque...
C'est pas décalé.
De l'entrepode. Il y a toujours, une espèce de petite phrase un peu décalée, très humoristique et qui est souvent très, très intéressante à écouter. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a le générique et c'est après le générique.
D'accord. Ah, ils nous ont piqué l'idée, donc.
Et donc, je vous invite à y aller parce qu'il reste encore 20 épisodes.
20 épisodes.
Ouais, mais moi, j'aime pas les liaisons.
Ah bah non, bah donc, tu fais n'importe quoi.
On l'a bien entendu, je dis 20 épisodes.
20 épisodes.
Voilà. Ok, bah merci Christophe. On mettra le lien bits.arte.tv pour ceux qui ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil et puis peut-être quelques vidéos d'exemples, etc. Je propose à Didouille de prendre
moi,
la
parole.
Moi, je vais
être super rapide finalement par rapport à vous. C'est juste parce que moi, je suis frustrée de ne jamais avoir eu l'occasion d'aller voir les Chacaponk. Et j'ai reçu une petite notice sur mon mail pour me dire qu'en fait, Chaka Ponk arrivait à Rouen le 17 octobre 2014 et que les places étaient déjà ouvertes à la réservation. Et les prix sont tout à fait honorables. Hein, je ne sais plus trop, ça va jusqu'à 39, 40 euros, je crois. Donc,
et franchement, t'en as pour ton argent quand tu vas les voir.
Bah, en tout cas, moi, j'aime bien l'esprit de ce groupe. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'ils ont la patate, ils sont dynamiques et voilà.
Tu connais pas.
Voilà. Et puis ce soir, je vais voir Yodelis, alors je ferai un retour à eux pour le prochain podcast.
tu ferais-tu là-haut?
Ouais.
Et tu sais pas, il a annulé en fait.
Bah, c'est pas grave, j'irai quand même au Saint-Six.
Voilà,
j'ai payé ma place.
Ouais.
Arrête.
Je te rejoins parce que le Chaka Ponk, j'ai acheté le DVD là. On a regardé le concert il y a deux jours.
Ouais.
Et c'est impressionnant. Enfin, j'en parlais tout à l'heure avec Lulu. Visuellement, alors après, on n'aime pas la musique, mais en plus, quand on les avait vus l'année dernière au 106, on avait pu voir que le. Alors normalement, il y avait du son, mais ça part pas. C'est parce que j'avais pas mis de bon truc. Mais quand vous avez vu l'année dernière au 106, il y a tout un univers visuel qui va en plus de la musique.
Une énergie.
Et sur le DVD, là, ils ont en plus rajouté, je dirais, le visuel, l'art graphique qu'on peut voir en concert, pour lequel on a de la vidéo, de la réalité augmentée intégrée sur le DVD. Donc, on voit quand même que c'est de la.
Et pour comparaison, quand même.
De synthèse, mais.
Même si j'adore System of a Down, c'était mon premier coup de gueule. Souvenez-vous de l'épisode 1 ou 0, je sais plus.
Oui.
Où je disais que donc à Bercy, bah, j'attendais de les voir avec impatience et que le spectacle était
fade.
Je les aurais vus dans le troquet du coin, il y aurait eu les mêmes moyens, ça aurait été la même quoi. Alors que là donc le DVD dont parle Nico, ça se passe à Bercy et là ils exploitent à fond la salle quoi, ouais. Et l'espace et les moyens qui sont mis à leur disposition en fait. Il y a un écran, il y a des effets,
il y a
ils vont
écran,
partout,
enfin,
ils se mettent une avancée, ils sont là, c'est un spectacle, c'est pas le CD en fort.
Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment intéressant. Et puis,
et c'est pour ça que je dis qu'on en a pour son argent quand on va les voir.
Donc ça déborde vraiment d'énergie. Et puis on en a. Ça fait longtemps qu'on en avait pas parlé, mais. Il y a aussi Bertrand Cantat qui apparaît pour trois chansons.
Ah, merde, ça faisait longtemps, lui, tiens.
Ça faisait longtemps, on a dû, sur quatre épisodes, on a dû en parler trois fois.
Il n'est pas au sommet du News.
Là, non,
ça, c'était classe, ça.
Bien sorti.
Mais là, en tout cas, il rejoint les Chacapong sur trois chansons. Bon, il fait un petit peu. Il n'a pas l'air d'être tout à fait dans le même rythme qu'eux, hein, mais bon, c'est pour ceux qui aiment bien Cantat. Et puis, moi, j'aime bien la chanson qu'il interprète sur leur dernier album. Bon, ça donne un petit truc en plus, quoi. Mais le DVD du concert est vraiment sympa. Et en plus, il y a une heure de scènes backstage qui sont en plus intégrées. Et sur ces scènes-là, on voit un peu comment ils bossent. Tous les mecs, là, ils sont. Enfin, les mecs et la nana, puisqu'il y a une chanteuse. Ils sont 7 ou 8 dans le bus à bosser dans 10 mètres carrés. Ils enregistrent le soir après les concerts. Ils sont tous sur carte son et puis tous recroquevillés, etc. Mais enfin, c'est assez marrant. J'ai vu que le début.
Je me demande quand même ce qu'ils prennent comme drogue, hein, parce que l'énergie, mais c'est incroyable.
Bah d'ailleurs,
peut-être ils font du sport. En fait,
c'est le nom du chanteur Frappe, c'est ça.
Fra, je crois. C'est son pseudo.
Fra s'était pété la jambe d'ailleurs.
Oui, mais il aurait
deux
pu,
jours avant, je crois.
Il aurait pu annuler le concert.
Et il joue avec une attelle et tu te dis qu'un mec qui a le genou en vrac qui fait ça, bon, je le fais déjà pas avec un genou normal.
Non, moi non plus.
Mais je crois que c'est de l'injection de cocaïne directement.
Ouais, ça doit être ça.
Ça doit bien marcher. Faudrait le tester ça.
Après, clairement, on va voir
Chapaconque
parce que ça.
Ouais, ça dépote.
C'est dynamique, quoi. C'est, on veut passer un moment, on défoule bien, puis.
Donc voilà.
Bah, écoute, je peux comprendre que ça fasse pas l'unanimité. Mais
rien ne fait l'unanimité, ma didouille.
Attends, ce que je vous fais à côté de tout à l'heure, tu vois, ça va faire.
Ah, bah ça, oui, j'imagine, mais il y a que.
En plus, t'as encore changé au dernier moment pour encore plus.
Moi, il me l'a fait écouter tout à l'heure, c'est génial.
C'est pas normal.
C'est horrible. Bon. Eh ben merci, didouille.
Elle t'en prie.
Alors, pour ma part, moi, je voulais faire un petit retour. Alors, je vais faire plus court que ce que j'avais prévu, hein, parce que sinon, ça va être un truc de malade. Vous n'êtes pas sans savoir un peu tous autour de la table que bon, j'écoute pas mal de musique assez diverse et variée, mais quand même, je baigne quand même depuis une vingtaine d'années plutôt dans Sylvie Vartan. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une rubrique un peu métal. Donc non, je suis quand même plutôt axé métal, etc. Et c'est vrai que à l'occasion de la sortie du dernier album de Korn, je voulais faire un petit retour sur ce groupe qui m'a vachement marqué.
Korn.
Ouais, Korn.
Le Korn que j'écoute, oui, ils ont sorti un album.
Ouais. Le groupe Popcorn,
le 8 octobre dernier.
Ceux qui ont fait.
Ah, j'aime bien alors.
On parle vraiment de celui qui a fait Adidas.
Exactement. Oui, exactement. Le groupe. Donc, moi, je voulais donc revenir un peu parce que c'est quand même un groupe qui, sur la scène métal, a quand
c'est
même
vieux, hein.
Marqué. Oui, 20 ans, 94,
bah oui,
premier
c'est
album.
Vieux, hein.
Donc oui, Korn, en quelques chiffres, c'est 11 albums studio. Donc le premier étant sorti il y a quasiment une vingtaine d'années, en 1994, qui s'appelle tout simplement Korn.
Avec un K. Ça peut des papilles,
je
quoi.
Je sens que mon voisin de gauche est à fond dans cette musique.
Ah bah il adore
donc,
ça,
je vais
il
pas le mettre trop, trop fort.
Donc son voisin de gauche, c'est Christophe.
Donc à titre d'information, Korn a vendu 50 millions d'albums de par le monde, environ, ce qui commence déjà à être assez.
Pour de la musique de merde, c'est
assez significatif,
beaucoup,
hein. Je t'en prie.
J'ai des parasites dans mon casque, c'est normal.
Ouais, c'est parce que tu niques un parasite.
8 albums ont été certifiés platine ou multiplatine. Ils ont sorti une quarantaine d'albums et ont gagné 2 Grammy Awards. Donc moi, Korn, c'est un groupe que j'ai beaucoup apprécié. J'ai découvert en 1995. Didouille aussi, t'as l'air de beaucoup apprécier. Donc c'était quand j'étais ado, au collège, au lycée. Je suis au lycée.
Alors
quand
que Christine, elle était déjà
alors que
grand-mère.
Moi, j'ai je suis devenue maman quand j'ai découvert Korn. Ça donne une idée.
Ah ouais, c'était en 1954, j'en souviens.
C'était, voilà.
Donc c'était un peu la figure de proue du néo-métal dans les années 90, hein, avec Limp Bizkit, Deftones et Slipknot, etc. Moi, je les ai vus pour la première fois à l'Exocet à Rouen en juin 97, et là c'était un gros choc avec Limp Bizkit en première partie, un groupe complètement inconnu à l'époque. Maintenant, c'est des groupes qui remplissent des stades.
À qui?
Et puis on avait même été boire une bière avec eux à la fin du concert. Enfin, c'est des choses que je pense qu'on ferait plus trop maintenant, quoi.
Pas mal.
Donc, le groupe en fait a une vie un petit peu chaotique fin des années 2000, avec le départ notamment du deuxième guitariste dont le pseudo est Ed, qui a quitté le groupe après avoir eu une illumination religieuse.
Ouais. C'est un reborn Christian.
Il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus et il a quitté le groupe.
Il est parti avec les extraterrestres.
C'est pas loin. Donc et puis finalement il est revenu il y a quelques mois, et quand j'ai appris ça m'a un petit peu intéressé, mais sans plus. Finalement, j'ai entendu mon copain Boulik en parler dans son podcast Loud Corner, qui était en termes assez élogieux pour le groupe. Bon, les extraits qui passaient m'intéressaient pas plus que ça, mais bon, je me suis un petit peu plus intéressé. Pourquoi ? Et puis, on m'a prêté. Hop là.
Dans
les deux rock hard ou hard rock, je sais pas comment ça s'appelle.
Rock hard.
Qui, l'un et l'autre, parlent de Korn sur leur retour au Sonisphère l'année dernière, et puis, enfin cette année d'ailleurs, et puis du dernier album en des termes plutôt élogieux. Et là, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais quand même essayer de l'écouter. Je vais l'écouter sur Spotify.
Il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu
te
dis.
Et je l'ai écouté sur Spotify. Et finalement, bah, j'étais un peu dubitatif la première fois. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu envie d'y revenir, etc., etc., jusqu'à acheter l'album cette semaine. Parce qu'on y retrouve un peu du. Bah, je dirais pas de l'historique de Korn, parce que bon, maintenant, 20 ans après, s'ils faisaient la même chose, ça serait un petit peu dommage. Mais on retrouve un petit peu ce qui fait l'intérêt.
Touche.
Voilà, le groove, les guitares lourdes, une rythmique assez intéressante. Et puis surtout, le chant de Jonathan Davis, moi, que j'adore. Avec, bon, Korn, leur musique, ce qui est particulier, c'est justement, c'est une basse 5 cordes jouée de façon assez percussive. Des guitares très très lourdes, des 7 cordes, qui sont vraiment très très lourde, avec des dissonances pas mal dans le début. Les premières années de Korn, c'était assez dissonant, avec un son groove, et puis un chant assez habité, voire torturé, parce que Jonathan Davis, il est pas tout seul dans sa tête, mais qui pour moi est vraiment quelque chose d'assez efficace, et j'aime beaucoup. C'est... Et là, des petites sonorités de basse qui sont assez sympathiques.
C'est des Life is Peachy ou...
Ça, c'est Life is Peachy, ça.
Voilà, c'est ça.
Donc avec des musiques un peu, bah voilà, c'est pas easy listening, hein.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est particulier. Donc les deux premiers albums sont assez compliqués à écouter, et puis après ils commencent à faire des trucs un peu plus
mainstream,
un peu plus commerciaux, on va dire. Beaucoup de gens ont trouvé ça, voilà, ces albums-là qui sont un petit peu plus faciles à écouter, avec des sons un peu plus recherchés, plus produits, etc., un peu moins brut de décoffrage. Et beaucoup de gens ont critiqué ce virage, mais bon. Moi, le premier d'ailleurs, les premiers mois, puis après j'ai bien aimé. Oui, Didouille ?
Oui, par rapport à tout à l'heure, on parlait de Scott Bradley qui avait repris donc Royals, Sad Clown. Mmh. Il me semble que Korn avait repris The Wall des Pink Floyd.
Oh, ils ont fait pas mal de reprises, oui. Pas toutes très très réussies, hein, notamment
Radiohead, Creep,
qui était un petit peu nul.
Mais enfin, celle de The Wall, je l'ai trouvée pas mal.
Je connais pas, ils ont repris One aussi de Metallica. Et puis bah, je voulais la mettre aussi, ils ont participé à un album de reprise de L'étrange Noël de Monsieur Jack, et je trouve que leur musique un peu habitée, un peu torturée, voilà, colle bien à l'univers de Mr. Jack et la musique de Korn un peu barrée. Donc moi, c'est vraiment un groupe que j'apprécie très très fortement, et leur dernier album, pour revenir à ça, est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses différentes, très influencées.
Est-ce qu'il se renouvelle un petit peu, ou ça reste dans la même veine? Enfin, en gros, tu retrouves le tu retrouves
pas, moi j'ai vraiment abandonné pendant une dizaine d'années quasiment, après le départ de Head, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et j'ai vraiment, tu vois, la basse, elle a vraiment un son percussif, hein. Je pourrais croire que c'est une partie batterie presque. Mais non, ils sont revenus à des sons. Bah, je vais mettre un ou deux petits. Ils aiment beaucoup l'électro aussi. Le chanteur est assez barré électro. Tu vois, ça peut avoir des sons peut-être plus easy listening à la base. Je suis pas hyper fan des. Ah, même si j'adore Jonathan Davis, je suis pas toujours d'accord avec ses choix artistiques. Il y a beaucoup moins de dissonance par contre, par rapport au truc qu'on entendait tout à l'heure, avec des sons assez perturbés. Mais je vais laisser un petit peu juste ce morceau là avant de conclure. C'est pas le plus significatif, mais je l'ai mis comme ça un peu au hasard.
Donc. Parce que tu fais Faith No More, mais ça
va. J'allais dire, j'ai l'impression d'écouter.
Ouais, mais ça va vite changer un petit peu.
Ouais.
Ah, vous êtes beaux tous les deux.
Oh là là.
Étonnant.
Il se passe quelque chose, lui.
Je crois, je vous connais pas, madame, mais.
Ah, ça fait Muse.
Je parle pas de merde.
Ah, si, c'est un morceau de Muse, ça fait ça. Ça, non.
Bon, ça. Christophe enlève son casque. Voilà. C'est pour dire que c'est dans la continuité, un petit peu différent, mais
ça me plaît bien,
j'ai retrouvé des choses intéressantes. Et ce qui est fort
dans
le temps,
moi, ça me parle, moi.
Voilà, c'est l'atmosphère du groupe qui est. Et je trouve qu'on retrouve quelque chose. Je sais pas, c'est le retour de leur groupe, s'ils ont retrouvé un certain équilibre, parce que quand on lit certains articles, ils ont quand même été tous un petit peu perturbés, mais ouais, je vous le prêterai. Tout
ouais.
N'est pas très bien. Hein. Il y a un ou deux morceaux qui sont assez médiocres. Mais l'ensemble.
Écoute Nico, ce podcast je le trouvais plutôt médiocre depuis à peu près une heure et demie, et je trouve que là il y a quelque chose.
Tu dis ça parce que Gaëdic nous a quitté. Non, Gaëdic a dû nous quitter, donc on le remercie.
Non, tu sabres.
Voilà.
Ouais, j'ai adoré.
Je vais abréger les souffrances de mon voisin de gauche.
C'est ça, je te veux dire.
Pour ne pas le citer.
J'aime beaucoup.
Et puis j'invite beaucoup de gens. Je mettrai de toute façon la playlist sur le billet, puis je vous inviterai à écouter ça et je vous prêterai le CD si vous voulez. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur mon groupe assez fétiche dans les années 90 que j'avais relâché et puis vers lequel je reviens depuis un mois, notamment grâce à mon copain Bouli. Voilà.
C'est
merci
beau.
Merci Bouli. Le salon de l'érotisme, ouais.
Alors là, voilà, c'est le moment.
T'en peux plus, toi.
Un poco.
Ah. Yeah.
Ça, c'est du générique.
Oh, oui.
Il fait chaud. Oh. Hein.
Monte ton public. Ouais.
Tu sais qu'elle a dit
non,
faire...
non, donc, pas, elle est
je passe la parole à Starlet et à Didouille certainement pour leur retour. Elles ont testé pour nous.
Surtout Starlet.
Le salon de l'érotisme.
On t'écoute, on vous écoute.
Oh, et vous nous regardez
vous
ou pas
êtes...
On fait que ça.
Alors je suis épilée ou pas?
Dis-nous tout, coquille.
Donc voilà pour cette.
J'aurais pas pensé à une taille comme ça pour toi.
Ce sont des vrais.
Oh non. Il aime pas.
C'est marrant.
J'ai fait une carte coy, j'y peux rien.
C'est marrant vos poils en accroche-cœur là.
Donc ce mois-ci, la rubrique j'ai testé pour vous, je l'ai partagée avec Maudie Douille. On est allées toutes les deux au salon de l'érotisme qui avait lieu le samedi 2 et dimanche 3 novembre dernier au Parc Expo à Rouen. Donc voilà, donc l'entrée était valable 2 jours, c'était 15 €, donc je suis allée sur le site, j'ai imprimé nos petits bons de réduction de 4 €. Dans le bureau
y a
d'à
pas
côté.
De petit profit, hein, ma
voilà,
petite.
Voilà, exactement. Donc ça nous a coûté 11 euros chacune. Wow. Et puis on est rentré, puis on nous a offert des préservatifs.
Quel sens du sacrifice.
Non, non. On nous a dit ah, excusez-moi, mais là, nous avons j'ai oublié de vous donner des chewing-gums.
C'était un spectacle humoristique.
Non, 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 ça nous a mis direct dans l'ambiance. On a pris nos petits pochons, puis on est rentré. Donc, la star du salon de l'érotisme de cette année, c'était quand même Alain Théo.
J'ai peur là.
Est-ce que vous vous en souvenez
chanteur,
est-ce que vous vous souvenez d'Alain Théo?
Pas du tout.
Mais oui, oui, dans les années 80.
Comment ça, vous connaissez pas Alain Théo?
Il chantait
attention,
ça.
Attention, il chantait ça.
Putain, j'en ai roulé de la peine là-dessus.
Ça, c'était en 98. Ah bah tu vois, j'ai dit 80, moi. Oh la loose.
98?
Ouais.
Tu sais que j'en ai roulé de la pelle là-dessus.
Ouais, parce que t'aurais dit en 2013, il y a ta voisine de gauche qui t'en aurait mis. Mais...
j'en ai dragué des gamines de 13 ans.
Donc voilà, on peut peut-être abréger nos souffrances.
Je préfère les cornes.
Ouais, tu peux peut-être virer parce que... Ouh. Donc c'était un inoubliable tube mièvre à souhait des années 90.
Ou très oubliable d'ailleurs.
Voilà, exactement.
D'ailleurs, qui nous a jamais emmené finalement.
Oh, finalement, non. Donc on s'est dit, on va aller voir quand même le spectacle d'Alain Théo parce que... Voilà quoi, emmène-moi. Donc on est allé voir, mais on n'est pas resté très longtemps.
Non.
Ah, et pourquoi?
Mais par contre, qu'est-ce qu'il faisait dans le salon de l'érotisme?
Mais
en fait,
voilà, alors,
pas,
bon, tu poses la question, je vais te renseigner un petit peu. Le gentillet Alain Théo a sorti un album.
Le gentillet déjà.
Gentillet. Un album qui puise sa source dans les arcanes du sadomasochisme et des jeux de domination.
Ah oui, quand même.
D'accord.
Donc c'est un album musical.
En fait, il s'est renouvelé un peu.
Disons que sa compagne aussi fait partie du milieu un peu hot.
D'accord.
Voilà, donc on est allé voir, on n'est pas resté longtemps parce que c'était à base de tatane la gueule et t'adores ça. Et
oui,
vas-y, retatane-moi la gueule, j'adore aussi ça.
Il y avait une scène,
un peu longuet.
Une scène ouverte sur laquelle se produisaient différentes personnes, dont Alain. Et Alain, au bout d'un moment, il nous a un peu gonflé avec ses petits bâtons.
C'était trop long en fait.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que.
Fous-toi à poil, Alain, merde.
À poil, Alain.
Alors ça vous donne une idée, on n'a même pas eu cette patience-là, c'est dire.
Voilà.
c'était vraiment trop long. On a dû rester 5 minutes, il se passait rien.
Voilà. 5 minutes quand même, hein, oui.
C'était vraiment trop long.
D'accord.
Ouais. Même pas, oh, il
c'est déjà long,
5 chemise,
minutes. Hein, non, ça, vous trouvez pas 5 minutes, c'est déjà
d'accord.
Pas mal.
D'accord.
Hein. C'est honnête, non?
Et vous avez rien ramené en audio, justement, de ce que fait monsieur Alan
Didou, t'avais pris des vidéos, non? Non, t'as pris
alors,
des
moi,
vidéos
d'autre chose. Oui, j'avais pris des vidéos d'un Autrichien, moi.
Vous m'expliquez. Ya, c'était très gentil. Là, vous allez venir après ou
non, parce que je sais pas si je peux intervenir tout de suite. Alors, donc, cette scène ouverte donnait lieu à des prestations d'effeuillage, mais plus qu'érotiques. Puisque on pourrait redéfinir effectivement
moi,
le terme du salon.
En fait.
Voilà. Donc nous avons vu des personnes, féminines et masculines. Et contrairement à Alain Théo, celui-ci promettait être. Alors le présentateur disait de lui qu'avec peu de choses, il faisait énormément. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et on a quand même réussi à tenir plus de 10 minutes. Hein. Donc j'ai pris des petites vidéos. Pour savoir, bon, effectivement, il finit en string et il y avait une barre de pole dance. Et là, bon, ce qui devait être sûrement très, très, très joli, bon, il est monté, il nous a fait une petite équilibre seulement.
Le matos est sorti.
Sans mon oiseau Péligou ne tenant pas dans son petit string, le truc, il est parti. Voilà, à l'équerre.
Paf, quoi.
Ah ouais, le ragondin, il pendait au milieu.
Voilà. Non, il pendait pas.
Ah, il tenait droit, comme un mât de misaine.
C'était l'homme poutre.
Ah non, mais parce que
c'était Roy la poutre.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'il avait pris une jeune fille dans le public.
Il avait carrément pris une jeune fille.
Ah, carrément. Non, mais c'était
non,
pas
non,
loin.
Mais il a pris des vidéos. Et en fait, il a dû essayer, oui, à force de prendre ses mains et puis de se frotter le kiki avec, je pense que ça a dû susciter une demi-molle quand même. Hein.
Et demi-dur, j'aurais dit.
Ça sent la cerise.
Voilà. Et ce qu'on a vu, c'est quand même un mec qui donc a fini par montrer devant, à droite, à gauche, son membre. Puisque on peut parler d'un beau membre quand même.
Il était bien membré. Plutôt genre mulet ou plutôt étalon?
Plutôt genre. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé dans l'ancien podcast des restaurants du restaurant Benjin qui faisait.
C'était un peu là, non, c'est ça?
Ça ressemblait à celui du yak.
Yak.
Voilà.
Donc l'experte a parlé. Donc
C'était complètement démesuré.
Ah ouais.
Ah bah c'était une troisième jambe, disons-le.
Ah oui, non, mais voilà.
Ouais, l'homme poutre.
Ah, Ludo a l'air dubitatif.
Ah oui, non, mais
je vais vous dire pourquoi. Je me demande tout. Excusez-moi, hein, je vais être. Comment ça peut rentrer dans ces cas-là? C'est-à-dire que.
Non, mais je
me dis juste un moment comment.
Bah, avec du lubrifiant.
Bah, il faut avoir comme l'élasticité quand même, parce que je veux dire.
Bah, la femme est.
La profondeur aussi quand même, parce que là.
Aussi, ouh, là, on va passer explicite sur iTunes. Hein, ça, c'est... T'imagines, t'arrives, ça commence à te gratter les amygdales, c'est bizarre comme truc. Moi, je dis. Oh, ça fait la luette. C'est rigolo. Enfin, bref. Pardon. Charlotte, Didoui, je vous laisse. Continuer.
Donc, on s'est baladé un petit peu dans les stands. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait, 10, 14.
Ah oui.
Voilà.
Didoui, je montre la photo. Preuve à l'appui.
Belle bait.
Non, tu déconnes, c'est pas possible. Non, attendez, un truc.
On passe pour des moucherons à côté.
Je sais pas
si on peut mettre la photo sur le blog.
Non, je crois que nos.
On va laisser l'imaginaire.
Non, mais tu me l'avais déjà montré, Didoui.
Ah, mais oui. Bah oui, c'est de dire.
Ah merde, j'ai un micro-pénis. Eh ben.
Donc voilà.
C'est ce que je me dis tous les matins et soirs d'hiver.
Donc on est allé se balader un petit peu, du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de stands de prêt-à-porter.
Étonnant.
Oui, donc tout ce qui est gadget, par contre, pas énorme.
Non, si, il y avait un marché, quoi. Si, il y avait du gadget, mais c'était pas érotique. Je sais pas, j'ai trouvé ça trop.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, c'est ça.
Oui. Votre
sentiment, quoi, finalement.
Bah, moi, ce sera ma conclusion,
d'accord.
En fait. Je voudrais vraiment.
Alors, moi, quand je dis. Enfin, si on me dit salon de l'érotisme, moi, j'aime l'idée de curiosité, quelque chose de feutré qui invite à venir découvrir. Là, c'était open space, des barnums et des petits paniers. Comme au marché pour te prendre ton.
Ouais, c'était à Rungis,
ton
quoi.
Comment
mais c'est ça en plus.
Les néons partout et
le marché au gros, quoi.
Ouais.
C'était l'extenseur de pénis.
Oui, voilà.
Il y avait des sucettes en forme de
bulles. Des lampes de chevet de 40 cm assez suggestives.
Voilà. Tu faisais tes courses comme si t'allais acheter des pommes, des pommes et des Scooby-Doo.
Ouais, il n'y avait rien qui titillait vraiment.
Mais ce qu'il faut qu'elle vous explique, Starlet, c'est quand même un moment qu'on a vécu. Moi, je me suis vue devant un stand pour une épilation intégrale. Donc, il y avait un moniteur, une petite télé qui vous montrait comment on épilait.
Un moniteur
donc
qui te montrait.
Si,
attends, d'accord, mademoiselle, le je vais te montrer.
Et donc, moi, j'étais en train...
Planté de la bite.
On parlait d'épilation.
J'étais en train de regarder à quel point la pauvre jeune fille allait souffrir lorsque Starlet
personne n'a respiré.
Oui, parce que ça a duré 10 minutes avant qu'il enlève l'espèce de truc qui était censé lui enlever les poils.
Et juste donc, pendant que Didouille regardait l'écran, je regardais le stand de d'épilation et là, je vois le mec avec le matos à l'air. En fait, qui montrait une dame comment il fallait faire, tout ça. Donc, je m'approchais avec l'appareil photo parce que je voulais quand même garder un moment de
Starlet.
Bon, il a remballé quand je suis arrivée. Mais c'était vraiment, open space. Tiens, elle est comment la tienne? Puis tiens, la tienne est comment? Et puis, voilà.
Elle était comment la sienne?
Je me suis pas attardée.
Au repos.
Puisque, par rapport, on sortait du show, donc ça me paraissait assez classique, en fait.
Et alors, la clientèle, en fait.
Alors, de très varié.
Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent en mini-jupe avec des
bas? Oui.
Est-ce que c'est vraiment...
Mais t'as pas que ça, t'as aussi des couples de quinquas, t'as des personnes seules, t'as des personnes jeunes, enfin, t'as vraiment de tous les genres, de tous les styles, c'est très, très, très varié.
T'avais des cabines pour des shows de lap dance. Tu payais 10€ ta cabine en intime et tu te faisais faire un plaisir. Enfin, il te faisait plaisir parce que tu payais un lap dance.
C'est-à-dire une danse rien que pour...
Une danse érotique rien que pour toi.
Okay.
Et les shows pour les filles étaient gratuits, mais les mecs devaient payer et vice-versa apparemment. Mais nous, on a plus testé d'autres choses.
Mais personne ne se demande ce que vous buvez depuis tout à l'heure.
Mais c'est très bon, c'est la frise.
C'est la frise. C'est...
Ce que vous buvez goulûment depuis tout à l'heure, c'est la fonte de ma tante.
Je me trouvais bien, j'ai retrouvé un poêle.
Voilà, donc c'est les apérotiques. C'est le premier stand qu'on a fait avec Didouille. On en a goûté peut-être, je sais pas, 8-10.
On a goûté tout.
On a tout goûté.
On a tout goûté parce qu'on...
Et donc, c'est quoi, c'est aphrodisiaque, c'est...
Non, pas du tout.
Pas, c'est juste les noms qui sont drôles.
Voilà. Les merchandising, quoi.
C'est fort ou pas?
Non,
pas
du tout. Ça fait quoi, 10
11 degrés.
11 degrés. Degrés. Tu vois, c'est pas
grand-chose.
Est-ce
que l'on peut utiliser la bouteille après?
J'ai l'impression que oui.
Elle a déjà été utilisée.
Peut-être enlever la... Ouais, oh non.
Je disais bien, j'ai trouvé un poil dans mon verre.
Vous auriez pu nettoyer, quand même.
Donc, il y avait ça, il y avait... Ah bah alors voilà, on a toute la liste. Il y a les prunes de monsieur, la galipette aux fraises, la turlute au chocolat, bon après le gras de cul, bon qui est plus connu déjà le gras de cul.
Le gras de cul quand même. C'est un classique ça.
La fente de
donc
ma tante.
Donc on a commencé par ça.
Ça c'est la fente de ma tante.
La fente de ma tante, ouais.
Ouais.
Parce que je suis absent des quelques instants, je vais vite goûter ce délicieux breuvage.
Mais c'est très bon.
Rouge. C'est bon hein.
C'est
pour ça qu'on est reparti avec nos coffrets.
Bah voilà, chacune.
Il y a Lulu qui est en train de mourir.
Je m'étouffe avec les poils.
Oh non.
Prends un petit sopalin. C'est pour ça le sopalin.
Vous allez pouvoir aussi ouvrir vos petits paquets, les garçons.
Alors, les filles nous ont ramené un petit paquet.
Les filles nous ont ramené un petit paquet.
Il y en a aussi pour Freddy, mais on lui refusera la prochaine fois.
Oh, il faut oser, nous on a osé.
Allez-y, allez Marius,
on a osé
tester
pour vous. Alors,
je me vois.
Mais c'est pas violent. Hein.
on ferait le slip de Bruce Lee.
C'est un caleçon, donc, rose fluo fuchsia.
Et vous remarquerez que le message est personnalisé.
Je suis insupportable, il y a écrit.
Et j'aime faire chier le monde. C'est bien, ça te va ou pas?
C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un.
Christophe, à ton tour.
Tu m'attends au pire.
Ah bah, non, c'est personnalisé.
Et on regarde, en plus la couleur, faut dire les couleurs.
Ça va, alors Christophe, c'est
Christophe,
rose et
c'est
blanc.
Rose et blanc.
Ouais. Oui, excellent.
Et vas-y, dis Christophe, qu'est-ce qui est écrit sur ton...
En grève.
Voilà.
En grève.
Ludo?
Ah, c'est à moi, j'ouvre mon petit paquet.
Il y a du public, il y a du public.
Oh, attention, les fans sont arrivés.
Ça va, ça vient, c'est la folie aujourd'hui.
Oula, attention,
le nom c'est dans les tons
orange.
Orange, eh bien je pourrais jamais mettre gynéco amateur.
Classe.
Et Nico.
Par contre, vous êtes sûr que je vais pouvoir tout contenir là-dedans? Oh. C'est grand pour quand même.
Hein. Bah, t'aimes bien être serré.
Bah oui. Et moi, donc j'ai un violet un peu plus classieux. Oh putain. Ah, c'est long en plus.
C'est quoi?
Je suis ce que je suis. Si ça te plaît pas, moi je t'emmerde.
C'est marrant, ça m'appelle quelqu'un.
Ça. C'est marrant, on dirait que c'est personnalisé.
Les filles, vous avez très bien réussi, hein, franchement.
En tout cas, il faudra
c'est
une photo.
C'est sympa, merci. Ouais. Merci beaucoup.
Du défilé.
du défilé à faire. Voilà.
Ah bon, moi je suis pas, en grève. Hein.
Non, t'aimerais bien.
Juste en chômage technique.
C'est le bordel.
Donc voilà, allez, bon, y avait.
Merci beaucoup pour le petit cadeau.
Oui, merci beaucoup. J'ai hâte de le porter.
Mais à même le vont adorer.
Je vais le porter à même le poil. Ça va être génial. J'ai hâte.
Il y a aussi des, on a trouvé aussi des petits engins qui sont assez sympathiques.
Oui, oui.
Oui, si vous avez fait des découvertes technologiques.
Ah, les trucs enfin, massants, là, les trucs rigolos, là. Les quadripodes vibratiles.
Les, ouais. Alors, on a trouvé des. En fait, ce sont des vibromasseurs, finalement. Hein.
Mais ah, de. Où on met, où on veut. Enfin,
voilà. Oui, c'est multizone, on va dire.
Oui, mettre dans l'oreille.
Merci de la précision,
oui.
Delphine.
Oui, oui.
Moi, j'ai testé sur les épaules, c'est très agréable.
Oui, oui.
En fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser.
Faut pas être trop chatouilleux quand même.
Ça va.
Oh non,
ça va parce que je suis chatouilleuse et.
Ah
ouais,
je suis chatouilleuse.
En fait, au départ, ça nous intéressait pas jusqu'à ce qu'on se. Que Starlet se fasse alpaguer par la jeune fille qui lui a testé ton... sur le dos.
Ah non, j'ai eu très peur aussi. Jusqu'à Starlet se fasse.
Qu'est-ce qui lui a testé quoi sur le dos?
En l'espace de 5 minutes, j'ai perdu Starlet.
Ouais.
Comment
si on roulait, j'étais plus là en fait.
Rien que dans le dos.
Ah oui, non, mais carrément. Elle m'a chopé avec ces deux trucs là, ces deux trucs à quatre pieds. J'étais plus là en fait.
Elle m'a chopé avec ces deux trucs à quatre pieds. Ok, voilà.
En fait, c'était Nebraska Jim.
Je te montrerai tout à l'heure, Marius, je te le ferai. Tu vas voir, c'est hallucinant.
Il y a l'œil qui pétille là, Marius.
Moi, j'ai une question sur la moyenne d'âge de. Je sais que de savoir.
Sauf que, t'étais pas là.
T'étais parti au lycée en fait.
Ok, je vais observer un silence pudique et. Je vais me faire oublier.
C'est surtout qu'on y est allé en début d'après-midi.
Oui.
Mais au moment où on partait, il y avait de plus en plus de personnes qui arrivaient, sachant que le salon, il était ouvert jusqu'à 1h du matin, avec, je pense, des promesses sur les shows.
Comme c'était déjà sympa.
Déjà, vu comment c'était à 17-18h, à mon avis, à 1h du matin.
À mon avis, 1h du matin, ça y est, le slip était la bonne partie.
Mais c'était franchement pornographique. J'ai pas trouvé ça sensuel.
Ça n'avait rien
du tout.
De sensuel et d'érotique.
Surtout les shows masculins. Les shows masculins, c'était.
Oui, parce que
tiens, regarde ma grosse tub.
Non, mais c'était exactement ça.
Ah, mais Marius, tu l'as fait.
C'était ça. Parce que juste après, il y avait une jeune fille qui a fait un strip.
C'était joli.
C'était super joli.
Alors qu'il peut y avoir des idées superbes. Moi, je pense par exemple, tu pourrais faire la chute du faucon noir comme ça, avec un gros black, avec une. qui ferait l'hélicoptère, puis à un moment, poum, il est abattu par.
J'ai des idées. Tu peux te recycler dans l'animation, la mise en scène de shows pornographiques.
J'ai juste un problème, c'est que, ma palle d'hélicoptère, oui, mais par contre, je suis pas black. C'est pour ça le problème.
Puis la palle d'hélicoptère, bon.
Donc voilà, on s'est fait vernir les ongles, on a passé un bon moment.
Les fins de phrase sont toujours. Attends, il y a un suspense quand même, d'accord.
On s'est fait vernir
les ongles. Je peux te dire qu'on s'est fait vernir. Et ça, pour se vernir, ils nous ont mis deux couches. Avec les motifs.
Ouais, ceci dit, on est reparti les mains pleines quand même.
Tant que c'est Clément, ça va encore, bref. Ok, voilà.
Bon,
je sais pas si.
Non,
est-ce que vous avez dégusté des trucs
Par la forme de ma tante et les prunes dans les yeux.
Le chocolat. Mmh.
Bon. Enfin, je repars mitigée quand même salon de l'érotisme parce que ça a pas tenu sa promesse en ce qui me concerne.
C'est-à-dire pour toi la promesse.
C'est-à-dire que honnêtement, je m'attendais à repartir du salon un petit peu émoustillée.
D'accord.
C'était pas du tout le cas. Vraiment, c'était comme disait Didou, le supermarché porno. Ouais. Le supermarché du cul, mais pas du beau cul en fait. Je sais pas comment. Il y a
pas du cul genre. Stanley Kubrick, tu sais.
Eyes Wide Shut.
Tout t'as envie d'être titillé, puis oser des choses parce que t'es titillé.
En fait, c'était du porno froid.
C'est ça, pas chaud du tout.
Non, mais c'était, il y avait pas de chaleur, il y avait pas de.
Ça manquait d'âme, quoi, voilà.
Ça manquait de sensualité, d'érotisme. Moi, en fait, le salon d'érotisme n'était pas érotique.
Ça, puis j'avais lu sur des forums le salon de Rouen est spécialement
froid.
Spécialement froid et pas agréable à faire.
Tu sais, ça, à la limite, ça peut jouer avec. Pas grand chose.
Des lumières.
Des tentures en velours, des lumières tamisées, mais là, c'est
des odeurs, je sais pas
qui. Des scabs et des cuirs.
Alors là, c'est un cri du cœur, là. J'ai pas tout compris, mais on sent qu'il était dedans.
Enfin, donc bref, voilà, c'était.
Tu vas dans un sex shop comme Carré Blanc à Rouen, t'auras eu la même sensation que ton salon.
Il n'y a rien d'autre, à part que tu payes 11 euros. Non.
Moralité, j'ai trouvé une petite morceau qui résume bien ce que j'ai ressenti, en fait. Que Nico va nous mettre, s'il est bien gentil.
Pour conclure,
voilà, ça change de Gloria Gaynor.
Ah ouais,
ça donne un peu l'image.
Ça résume plus, je trouve, que Gloria Gaynor, vraiment.
C'est vrai, c'est quand même Gloria Gaynor, c'était quand même autre chose.
Ah oui, mais je m'attendais à du Gloria Gaynor et j'ai eu du DJ Team en fait.
S'il vous plaît.
C'est parti, maestro. Mais attends, pardon.
Juste Starlet, c'est pas Gloria Gaynor, c'est Donna Summer.
C'est Donna Summer, oui, j'allais dire en même temps. C'est.
Mais oui, pourquoi t'as dit Gloria Gaynor?
C'est toi qui l'as dit. I Will Survive, Gloria Gaynor.
Non, mais on est des pros de la musique.
Gloria Gaynor, c'est I Will Survive.
Ouais, je chante dans un groupe, je connais trop de trucs. Donc okay. Voilà, pour résumer, je m'attendais à du Donna Summer et j'ai eu du DJ Team. Quand il pète, il trouve son slip.
Et c'est dommage que Donna Summer, c'était quand même quelque chose. J'adore ce morceau.
Mais oui, moi aussi.
Surtout quand on connaît
comment il est
vu ce morceau.
L'autre, il est suggestif, mais bon.
D'ailleurs,
il est
explicite. Ça peut faire l'objet d'un prochain podcast.
Okay. Voilà.
Bah écoute, gardons des idées sous le coude. Et ben merci les filles. Hein. En tout cas, c'était très très sympathique. Je vous propose de passer à la suite, à nos coups de cœur ou coups de gueule. C'est à voir en 60 secondes chrono. Starlet. Ça tombe bien. J'ai vu celui qui est en train de
j'avais
boire.
Ma gorgée.
C'était plus une gorgée à ce niveau-là. En plus, Starlet, c'est la seule, je crois, qui a pas de coup de cœur.
Alors, j'en avais pas, mais j'en ai un maintenant. Ah. Il est parti, donc ma pudeur me permet de le faire maintenant. Chez mon coup de cœur, c'est Gaïdic Chambrier.
Waouh.
Ah. Wow. Hein?
Quand même.
Ouais. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa ce qu'il nous a présenté. J'ai appris plein de choses. Je voudrais voir tous ces instruments sans mauvais jeu de mots par rapport à la rubrique précédente.
Oui, c'est vrai. Voilà. La transition est.
Je crois qu'il est comme tout le monde, il en a qu'un.
Non, mais vraiment, j'ai trouvé ça captivant et j'aimerais bien voir son spectacle en fait, parce que j'ai trouvé ça très 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 chouette.
Je suis d'accord.
Voilà.
T'as encore 10 secondes.
Oui, bah comme c'est de l'impro, je peux vous chanter quand il pète, il trouve son slip.
Ok. Eh ben, merci Starlet, parce que je pense qu'on le partage tous un peu celui-ci. Oui, on est aujourd'hui. D'accord.
Pareil.
On est sous le charme. Tout pareil.
Comment vous
ensuite,
êtes trop jaloux d'avoir eu
monsieur
une rubrique.
Marius, tu es prêt? Ah, attendez. Avant, parce que Marius, il a quand même. Attention, c'est parti.
Donc voilà, moi, mon coup de cœur du mois, qui date du mois d'avant, car n'étant pas payé en tant que chroniqueur, je dois, en parallèle de cette activité, travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Alors, mon coup de cœur est consacré au dernier album de Sting, The Lost Ships, sorti le 20 septembre dernier, mais que je dois présenter avec deux mois de retard. Après plusieurs albums revisitant la musique lyrics, l'ex-policeman nous revient avec The Lost Ships, un album qui parle essentiellement du village natal de la star britannique et qui doit être adapté très prochainement en comédie musicale. Dans ce village, nous passons par des différentes variétés musicales qui vont de très belles ballades folk à des chants marins. On y retrouve également un côté celtique bien sympathique. Donc du grand Sting, toujours aussi mélodique à souhait, à écouter sans réserve. Je vous laisse donc avec Practical Arrangement, un des morceaux de cet album. With one roof above our heads, a warm house to return to. We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that.
Ça ressemblait à Sister Moon.
J'ai changé la sonnerie qui était un peu violente.
Sur l'album où il y a Englishman in New York, tu as une chanson qui s'appelle Sister Moon et ça ressemblait à ça.
C'est un côté sympa, crooner, un peu.
J'adore.
Par contre, tu dis The Lost Ship, c'est ça? C'est produit par Vico ou c'est. Non, c'est.
Oh merde! En fait, c'est
Chip perdu, quoi. C'est Chip perdu.
Même sur 60 chrono, je m'en
fous. T'arrives quand même à te faire bâcher. Eh ben Ludo, puisque tu fais le malin,
c'est à moi.
Je pense que c'est à toi.
Je pourrais te pourrir.
Prêt, c'est parti.
Ah oui, moi mon coup de cœur, c'est un coup de cœur sur quelque chose d'assez vieux en fait, qui est pas du tout d'actualité, puisqu'il s'agit du film de Wong Kar Wai, In the Mood for Love, qui est un film qui est sorti il y a quand même quelques années de ça, en 2001. Oui, et d'ailleurs qui a eu le César du meilleur film étranger en 2001. Donc c'est dire que c'est pas récent. Et donc je l'ai enfin découvert après qu'on me l'ait conseillé. J'ai enfin découvert après toutes ces années, et c'est juste un film magnifique que je conseille à tout le monde, qui est plein de sensualité, où il y a très peu de dialogue, mais où toute la mise en scène respire une espèce de quiétude, où l'amour est montré vraiment de façon très très subtile, voilà. Et c'est l'amour entre deux êtres, et c'est vraiment très très joli. Et voilà, et j'arrive bientôt à la fin de mes 10 secondes, donc eh bien je vais faire un décompte avec vous. 8,
oh
7,
non.
6, 5,
quel gros naze,
4, 3, 2, 1, 0. C'est beau, non?
Ah, merci Lulu.
Ouais, ça donne, moi, je ne l'ai toujours pas vu, hein, non plus, ce film-là.
Je le conseille particulièrement.
J'en avais entendu beaucoup de bien quand j'étais à la fac et je suis toujours passé à côté. Donc,
Enfin, c'est lent. Il faut rentrer dedans. Il faut se laisser porter. C'est envoûtant.
J'essaierai de rentrer dedans pour
rentrer dedans.
C'est.
Comme qui dirait.
Trêve de propos graveleux. Je vais proposer à Madame Didouille de nous proposer son ou ses coups de cœur. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu multiple.
Non,
c'est un seul. C'est parti.
Il n'y en a qu'un. Et je voudrais vous parler d'un site internet qui s'appelle A Little Market. Exclusivement réservé à des créateurs tant dans les fringues que les bijoux que la maroquinerie et sur ce site vous allez voir des gens qui sont très ingénieux dont une créatrice qui moi je trouve qu'elle a un incroyable talent avec ses bijoux parce qu'il y a énormément de goût. Elle s'appelle Mamselle Fifine, on laissera le lien sur le blog. Et Mamselle Fifine fait des bijoux avec des cabochons absolument super originaux, super jolis. Et elle a son propre univers et franchement je vous la recommande. Vous pouvez rentrer dans les boutiques de tous les créateurs et puis vous pouvez aussi confectionner puisque sur A Little Market vous avez A Little Mercerie qui vous propose tous les accessoires pour vous essayer à plein de choses. Et franchement allez voir ce site parce que il est super.
Eh bien merci, parfait Didouille, voilà, chapeau. Christophe, c'est à toi.
Oui.
Un coup de cœur, un coup de gueule, autre chose.
C'est ni parti. Un coup de cœur, c'est ni un coup de gueule, c'est juste un hommage à un homme qui a laissé une empreinte aussi rare que majeure dans l'histoire du rock. Certes, une minute, c'est un peu, c'est très peu au regard de la grandeur de son œuvre, mais je souhaitais vraiment dire deux mots à son sujet. Lou Reed n'est plus. Ses chansons ont servi de dérivatif et de palliatif à des millions de gens qui, comme moi, ont été bercés par son talent et son style unique. On lui a souvent reproché d'être quelqu'un de froid, d'austère, de très désagréable, d'insupportable même. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 17 ans, ses parents, petits bourgeois de Brooklyn, inquiets de voir leur fils se détourner du droit chemin, lui ont infligé d'atroces séances d'électrochocs. C'est probablement de là que lui viennent sa nature profonde, complexe, faussement sereine et d'une tristesse insondable, comme pourrait le montrer la chanson « Perfect Day », qui, loin d'être une ballade contemplative, comme pourrait le laisser suggérer son titre, est un morceau musical d'une mélancolie suicidaire. Fin d'une vie d'artiste.
Très beau texte, merci. Très bel hommage, effectivement.
Très belle chanson, « Perfect Day », oui, parce que tout le monde sait... Walk on the White Side, voilà. Et franchement, Perfect Day est largement supérieur, peut-être, parce qu'on l'a moins entendu.
C'est endormi. Qu'est-ce qu'il fait?
Non, il est en train de vomir.
Il a fait une micro-coupure.
Non, il essaie de voir s'il peut l'atteindre.
T'es pas assez souple, Ludo, t'es pas assez souple.
Saloperie d'Autrichien, tiens. Il a mis des complexes à tout le monde.
C'est surtout qu'il a un micro-pénis, quoi. Donc, même si tu étais souple...
Oui, mais il a un grand cou, Lulu.
Et il a enlevé les côtes flottantes.
Je ne répondrai pas à ses attaques.
Ses basses attaques. À mon tour, donc, moi, j'avais deux coups de cœur. Le premier, c'est l'association rouennaise Back to the Game, que j'ai rencontrée justement lors des portes ouvertes Seninopolis. C'est une association qui souhaite promouvoir la pratique des activités vidéoludiques, donc Christophe en parlait tout à l'heure, et faire découvrir les différents aspects de ce média. Grâce à son parc de matériel propre, l'asso organise des expos, des salons pour jouer avec les publics présents, afin de promouvoir la pratique des jeux vidéo, en s'intéressant essentiellement à l'impact social ou personnel de leur utilisation, mais aussi sensibiliser le public sur l'aspect historique et culturel des productions vidéoludiques. Et proposer également des clés de compréhension pour apporter un regard critique sur ce jeu, sur le jeu vidéo. J'ai beaucoup apprécié échanger avec ces gens-là. Et puis je voulais faire aussi un retour, Ludo me perturbe, sur l'épisode spécial des 50 ans du Docteur Who, qui est passé le 23 novembre dernier. Moi, j'ai découvert ça il y a pile un an. J'apprécie beaucoup, sans être vraiment un expert. Et j'ai fini la 7e saison pile pour voir l'épisode des 50 ans, que j'ai vraiment aimé. Et puis, voilà, j'aime beaucoup le Docteur Who. Et pour moi, David Tennant est le seul et l'unique bonne incarnation depuis des trois derniers Docteurs. Voilà. Nous avons fini pour nos coups de cœur et nos coups de gueule. Je pense que Didouille va nous faire une petite séance de culture générale pour nous aider à nous endormir moins bête.
Alors...
Générique.
Pardon.
Well, I'm gonna drop a hot water
Tu peux y aller.
Donc, vous avez remarqué que sur ce podcast, j'avais une ligne directrice très prononcée par rapport à...
C'est avec sur Sportscast.
Ah bon ? C'est pas faux. Mais en même temps... oui, allez. C'est ceux qui en parlent le plus qu'en font le moins. Bref.
Vas-y. Lâche-toi.
Une question. Une question, les filles. Une question, les garçons. Combien de calories... Combien de calories...
Elle a perdu sa question.
...compte... Le sperme par éjaculation.
Oh merde.
Ah,
700.
Non.
Alors moi, je sais que je suis super calorifié là-dessus. Je dirais 15 000.
Bah, moi,
15 000.
Ça dépend parce que moi, j'éjacule 15 litres de sperme à la seconde. Et... Donc,
ah, moi, je suis surpuissant.
Tu as micro-pénis, mais alors des bourses qu'il a, lui.
Donc moi, pour ne pas noyer ma partenaire, je fais des précautions. Donc forcément, les calories passent en second plan pour moi.
1000.
Eh ben non.
200.
Non.
3. Tic tac, 2.
Tic tac.
Quoi seulement...
Eh ben, alors, sachez qu'une il y a 1 à 7 calories par éjaculation.
Non, ah, donc, tu veux dire qu'une turluc, c'est équivalent à un tic tac.
Je veux dire que ça vaut l'équivalent d'une poignée d'épinards, donc les filles. Avalez, vous non. Ne grossirez pas.
La classe. Plutôt qu'un Mac. Ah oui, plutôt qu'un Big Mac. Ah ben voilà, oui, vous empifferez Big Mac.
Exactement. Voilà. Mais non, je rigole. Oh, ça va.
Quand c'est... je disais que ça allait être explicite, hein. Apple, ils vont jamais vouloir qu'on publie ça sur iTunes. Ah, oui.
Après, j'ai une autre question. Une autre question.
Utilise des mots.
Est-ce que...
Utilise des mots genre chien ou mais pas les mots, tu vois.
Les bisounours, toi.
Par exemple, moi, comme au bisounours.
Non, mais dès lors qu'on met des salons de l'érotisme ouverts à partir
mais non,
de
mais
saison,
vas-y, lâche-toi, on s'en fout.
Voilà. Maintenant, question simple, claire, efficace. Est-ce que ça existe une fracture du pénis ?
Oui. Bah oui. Non, mais en fait, c'est que du corps caverneux pourtant. Il n'y a pas d'os.
Mais je crois que ça existe quand même.
Oui, moi aussi.
Mais ça existe, la fracture du pénis.
Mais je ne saurais pas l'expliquer.
Alors oui, chaque année, il y a au moins 200 Américains. Ah. 30 et 40
ils sont vraiment cons.
Attends, non, mais...
Il n'y a que...
Pourquoi
non,
plus
non.
Ces Américains ouais,
c'est... 30 et 40 britanniques.
Britanniques
du qui se casse le pénis.
Ménage et chercher. Qui se cassent leur pénis.
En faisant quoi?
Quand il est en érection.
Mais ils se le cassent.
Ah ben
font
ça, je ne sais pas.
Ils en font quoi?
Des canettes à l'air.
Alors,
ou quoi
je vous... enfin, si je vous explique, ça arrive le plus
des briques,
souvent.
Hein.
Ça arrive le plus souvent pendant un rapport
là,
sexuel.
Là, faut que tu me lâches là.
C'est ta cuisse. Ça arrive le plus.
Non,
sou...
c'est.
Oh, mais... Dingue. Ça arrive le plus souvent lors d'un rapport sexuel violent.
Oui.
Mais aussi plus simplement en tombant du lit.
Alors
qu'il est en érection.
Elle allait chercher en même temps le rapport violent. Hein.
Alors qu'il est en érection.
Ben oui, c'est pas
voilà.
Le pauvre.
Donc méfiez-vous les gars.
Ah bah écoute, on a des barreaux au lit hein, parce que ça craint.
Et voilà.
Et ben voilà, bah, ça donne envie de ça.
Ben voilà. C'était mon information pour ce podcast du mois.
Merci
Didou.
Merci Didou.
Et puis ben... Nous allons passer donc à la fin de notre épisode. Donc un petit rappel
vite.
Sur l'endroit où on peut retrouver Gaëdic. Donc Gaëdic, je mettrai les liens vers tout ce dont il a pu nous parler sur le billet. L'Entrepode, vous pouvez toujours le retrouver sur entrepode.fr où vous pouvez trouver les liens sur Twitter, Facebook, Google, plus SoundCloud, etc., etc. Enfin bref, on va pas faire le tour de où on peut nous retrouver chacun. On l'a déjà fait plusieurs fois.
Ah,
non, si,
si
vous voulez
même.
Nous retrouver, là, si Ludo veut vraiment qu'on
on peut me retrouver moi à www.furonculosegenital.com jusqu'à la fois prochaine.
Ok. Parce que Ludo lance des concepts de sites et je vous c'est aux petits oignons. Par contre. Cela étant, avant de passer à l'actualité de Marius, je souhaitais un bon anniversaire à mon petit Lulu.
Ah, c'est
bon
gentil.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Magnifique.
Et dans un an, je suis majeur. C'est génial. J'ai ta boîte.
Et donc... Et j'aurai le droit d'aller au salon de l'érotisme.
Ouais.
Et mon pénis, il aura grandi.
Et pour revenir à reprendre un petit peu sérieux, en termes d'actu, on peut, Marius peut peut-être nous dire un petit peu deux, trois infos où on peut le retrouver prochainement.
Donc oui, moi le samedi 7 décembre 2013 à 17h30 à l'espace culturel François Mitterrand.
Parle bien dans ton micro. Parle bien dans ton micro.
On l'a entendu là tout
ouais,
ce
refais-le,
Samedi 7 décembre 2013, donc à 17h30, à l'espace culturel François Mitterrand de Canteleu, il y a une rencontre autour du groupe mythique des Dogs de Rouen.
Ah ouais.
Avec la sœur de Dominique Laboubé, Catherine Laboubé, qui fait une dédicace car elle a fait un livre Too Much Class, les Dogs. Et moi, à l'occasion de cette rencontre, j'expose une vingtaine de photos que j'ai faites des Dogs en 2002 ou 2003.
Ouais, on y sera.
Très bien.
Bah,
voilà.
On t'y rejoint
le 7 décembre, c'est ça?
Ouais, le 7 décembre.
À quelle heure? Tu rappelles l'heure? C'est
17h30.
Non, c'est un
et c'est à quelle heure le pot? Moi, je suis anxieux un pot.
Le buffet, il est bien ou pas?
Non, 17h30.
C'est quel traiteur?
C'est de l'alcool ou c'est Pepito Banga?
Non, dès que je l'ouvre, quoi.
Dès que je l'ouvre. Non, 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 très sérieusement.
Plaisir.
Non, merci, Marius. Donc, t'as dû mettre ça sur ton Facebook ou ton
talent,
Twitter.
Tout le monde le sait. Tes photos sont magnifiques. Oui,
et d'ailleurs, vous pourrez tous le voir parce qu'il a pris des très belles photos de Gaëdic pendant l'épisode. Eh bien, sur ce, nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de ce que vous faites. En fait, on s'en fout.
À très prochainement.
Et puis, on se dit dans un mois, peut-être un peu moins. On n'a pas encore décidé de quand est-ce qu'on allait enregistrer le prochain. Certainement un épisode courant décembre pour Noël ou pas. À voir, faut encore qu'on se concerte. Bien sûr, vous n'y couperez pas. J'en vois un qui trépigne. Après le générique, vous aurez bien entendu la chance.
C'est dans la thématique en plus, c'est cool.
D'écouter la rubrique de Ludo. Fais gaffe, t'es vachement au bord de la falaise. Et je pense que plus ça va, plus on s'en rapproche de la falaise. Allez, à plus. Voilà, donc pour finir en beauté, hein, comme d'habitude, une petite chanson très sympathique qui reste dans la thématique érotique de cet épisode, hein, et sur le sadomasochisme, enfin bref, toutes les choses qu'on a pu aborder, voilà, c'est très très plaisant. Ça s'appelle La Famille Harbour, et vous allez voir, on est vraiment complètement dans le salon de l'érotisme, attaché à la croix pour moi. C'est parti.
Eh bien, je crois que cette fois-ci, c'est le papa réal Harbour avec Martine, Régent et Sophie qui vont chanter « Attaché à la croix pour moi ». Et c'est un cantique, j'allais dire une chanson, mais c'est un cantique qui nous appelle à regarder à Jésus comme on vient tout juste d'entendre. Écoutez bien. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré.
Dieu, l'apparence est la plus.
Merci beaucoup à vous quatre, la famille Harbour, Réal, Régent, Sophie, Martine, qui vont être de retour parmi nous la semaine prochaine à l'émission Toute la Bible en parle.